Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Hello.
Et je suis aussi avec Exerve.
Salut.
Alors messieurs, avant de commencer cette émission, un petit disclaimer, nous ne serons pas là dans 2 semaines, on sera là dans 3 semaines, parce que sinon il y aura eu 3 épisodes au mois d'avril, et vous savez que voilà, on aime avoir 2 épisodes par mois, on ne dépasse pas. On est engagé auprès de vous, voilà, on maintient ça, mais du coup, petit décalage, ça nous permettra de souffler un petit peu, et je vous le dis, ce sera bienvenu. Voilà, ça c'est dit.
Mais pas d'inquiétude, on a des gros jeux qui arrivent juste après, voilà, vous le savez, vous êtes sur le Discord avec nous, si vous ne l'êtes pas encore, bah, rejoignez-nous, hein, tout simplement, vous pourrez connaître 4 épisodes à l'avance, on sait déjà ce dont on va parler dans plus de 2 mois.
Exactement.
Ça vous laisse du temps pour les faire, et bah, comme ça, d'en discuter avec vous.
Exactement, et puis surtout, se dire peut-être que c'est le moment de donner sur Patreon, de nous soutenir,
et
bien sûr de donner comme ça une petite piécette. Vous allez dans la description de l'épisode, vous cliquez sur le petit lien, vous vous créez un petit compte. C'est vrai, ça demande quelques clics, c'est un petit peu contraignant, ça je suis d'accord avec vous, mais hop, vous pouvez donner un petit euro, ça fait plaisir aux 3 personnes qui sont autour de cette table, et puis surtout ça nous permettra peut-être d'atteindre le prochain palier et de garantir la présence de certains jeux dans la prochaine saison. Je ne vous l'ai dit pas, Mass Effect, Deus Ex, Diablo 3, Pokémon Or et Argent, ça a été déjà plus ou moins décidé sur le Discord. Bien sûr, les choses peuvent encore changer, mais voilà, a priori, ce à quoi vous aurez droit, eh bien, si vous nous soutenez, car oui, c'est comme ça que ça marche ici, c'est la carotte, le bâton, vous connaissez. Non, voilà, évidemment, merci beaucoup si vous faites le choix de nous soutenir. Encore une fois, c'est vraiment grâce à vous qu'on peut conserver notre indépendance, notre liberté de ton. Tu sais, ça, c'est les arguments, des, un peu journalistes. C'est ici que nous pouvons faire ce vrai travail et ne pas nous lier à n'importe qui, mais nous sommes quand même liés.
Voilà, j'allais dire, et maintenant, les sponsors.
Mais on salue quand même notre sponsor Third Edition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Et t'as vu comme
t'es éclat coupé. Moi j'ai rien dit, j'ai senti que tu voulais pas me laisser le faire.
Il faut surprendre les gens, il faut casser les habitudes. Écoutez, Mehdi m'a dit il y a pas trop de news. Donc voilà, ce qu'on peut vous dire, c'est que les livres sont bien. Non, les news, allez, il y en a une, c'est que bientôt, il va y avoir une réédition de pas mal de livres Third qui étaient en petite rupture, notamment un, La Genèse et la Rédemption d'un Titan, l'histoire de Diablo, écrit par Benoît alias Exerve Régnier, vous le connaissez. Nous, c'est quelqu'un... Bah, c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on apprécie, on peut le dire autour de cette table, c'est quelqu'un qu'on apprécie. Bon, pas toujours d'accord quand même avec ces techs. Bon, voilà, moi, je le dis, il y a des fois où, voilà, comme ça. Non, voilà, ton livre qui va être de nouveau dispo.
Oui, ça doit sortir normalement en juin, je crois. Enfin, voilà, c'est début ça, de l'été. Il voilà. Y a le bouquin de Berserk aussi qui a été réédité il n'y a pas très longtemps. Enfin, voilà, il y a eu plusieurs rééditions.
Celui de Miyazaki, je crois.
Oui, aussi. Ouais. Voilà, donc profitez-en si vous les aviez manqués. Aller sur leur site et puis comme ça vous pourrez vous faire plaisir.
Exactement, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir, et on va d'ailleurs enchaîner là-dessus puisque aujourd'hui c'est Subnautica, c'est Yellow Submarine, un épisode où je vais essayer de faire un maximum de jeux de mots avec l'eau. Soyez à l'affût, écoutez bien hein, sur toutes les formules que nous allons pouvoir faire pendant cet épisode.
Vous avez reçu dans votre boîte aux lettres une petite,
un bingo,
tu sais, un bingo. Vous allez pouvoir utiliser votre petit tampon fin du game.
Exactement.
Mais c'est vrai que c'est le genre de jeu, même parfois tu lâches innocemment un mot, genre on va plonger dedans et tu fais ah oui, mince, c'est
voilà.
Un jeu de mots accidentel.
Faites attention, on essaiera de ne pas les noter, mais voilà, comptez-les, donnez-nous, comptez-les. Ceux qui auront le bon nombre sur Discord gagneront le droit de savoir un épisode de plus. Voilà, je m'engage auprès de vous. On va enfin pouvoir rentrer dans cet épisode après cette intro extrêmement sérieuse. On va terminer en plus avec une musique.
La musique emblématique de
incroyable. Ouais.
Est-ce qu'elle est vraiment emblématique?
Ah bah, pour moi, oui. C'est vraiment la musique du jeu, quoi.
Très bien.
Et peut-être pas celle qui fera le plus plaisir, mais...
elle nous fera plaisir à nous, voilà. je pense.
C'est ce qui compte.
Très bien. Et ben, bah, on se lance donc juste après ça dans un nouvel épisode de Fin du Game.
Welcome home to Altera. Permission to land will be granted once you have settled your outstanding balance of 1 trillion credits.
Alors, Subnautica, ça a commencé à sortir en décembre 2014. On reviendra d'ailleurs un petit peu sur cette période d'accès anticipé par la suite. Et puis, c'est quand même finalement sorti en V1, version officielle, final, le 23 janvier 2018 sur PC. Et puis, c'est sorti également sur PS4 et Xbox One, j'imagine. Pas encore sur Switch, ça arrivera peut-être, peut-être, on ne sait pas. Peut-être qu'à ce moment-là, on est en train de, vous savez, jouer un petit peu sur le plan astral, de débloquer des choses chez Nintendo. Voilà, j'espère que Unknown Worlds nous remerciera pour ça. C'est donc développé par le studio Unknown Worlds, qui n'a pas du tout commencé son histoire avec Subnautica. Moi, j'ai été assez surpris d'ailleurs d'apprendre qu'ils sont là depuis 2001. Ça fait 20 ans du coup, un studio qui a 20 ans. Leur premier jeu, c'était Natural Selection. C'était un mode de Half-Life. Hein, ils font partie de ces nombreux studios qui ont commencé leur carrière sur des modes de Half-Life. C'était un FPS qui avait la particularité d'être mélangé à du RTS, Real-Time Strategy, hein, du jeu de stratégie en temps réel, puisque on contrôlait la plupart des joueurs, en fait, c'était des combats, c'était un truc un peu compétitif, pardon. Il y avait la plupart des gens qui contrôlaient des personnages en mode FPS, et puis il y avait un maître du jeu, enfin deux maîtres du jeu qui s'opposaient et qui construisaient des trucs vraiment typiquement.
Il y a les Space Marines versus les aliens, et donc ça permet
d'avoir... Ça me rappelle quelque chose, une licence que quelqu'un aime bien autour de cette table.
Je sais pas, mais en tout cas le jeu...
Ah oui, Warhammer 40 000.
Allô. Mais le jeu en tout cas, parce qu'il y a eu Natural Selection 2 qui est sorti, alors, je sais plus, 2012.
12, ouais, parti, ouais, une dizaine d'années, 10 ans plus tard. Alors c'est vrai qu'entre temps ils avaient fait un jeu de Sudoku, donc ce qui fait que voilà, ils
avaient gagné assez d'argent pour vivre grâce au Sudoku.
Ou peut-être qu'ils en avaient pas assez pour développer.
Oui, oui, c'est peut-être possible effectivement que le besoin du Sudoku s'est fait.
Mais du coup, Natural Selection 2, donc, est sorti en 2012, qui a vraiment un super, taux de notes positives sur Steam. Donc a priori, il y a encore des news et des updates qui continuent de sortir, parce qu'il y a une grosse scène de modding. Je crois que la dernière mise à jour date de fin 2020. Donc il y a quand même, encore des trucs.
C'est
qui
un
s'y
petit jeu. C'est pas un jeu qui a fait énormément parler de lui, contrairement à plein d'autres jeux compétitifs. Comparé à des Team Fortress, des trucs comme ça, c'est tout petit, mais c'est vrai que c'est un jeu qui a toujours son petit culte comme ça, et qui a fait son petit bout de chemin, mais après ça, ils en avaient un peu marre des gunfights chez Unknown Worlds. En fait, pour raconter, c'est une histoire que donc Charlie Cleveland, qui est vraiment le directeur créatif du studio, raconte pas mal. C'est que aux États-Unis, il y a beaucoup de shootings, des mass shootings dans les écoles, dans les supermarchés. Bref, il y en a tous les jours, c'est fantastique.
C'est en 2013, il y a eu Sandy Hook, qui est assez connu. C'était beaucoup d'enfants, pour le coup. C'est vraiment dans une école qui a pas mal marqué. C'est vrai que ça leur a un peu miné le moral, quoi.
Effectivement, donc il avait vraiment ce discours de dire, on a peut-être plus envie de rajouter un média, une œuvre dans laquelle il est question de tirer sur des trucs, donc on va essayer de partir dans une direction totalement différente.
Et vraiment, sans dire, il le dit, tu vois, et c'est pas dans une optique de les jeux causent la violence ou quoi, il dit je crois pas à ça, mais c'est juste que je sais pas, j'ai envie de m'éloigner de ça. C'est vraiment une humeur qu'ils avaient sur le coup.
Et du coup, ils ont décidé de s'éloigner en s'inspirant de diverses références. Déjà dans le jeu vidéo, il y avait deux jeux qui étaient quand même assez importants, on va dire fin 2013, c'est à ce moment-là, je le disais, que va commencer à sortir Subnautica. C'est Minecraft, déjà, que un petit phénomène, qui commence un petit peu à faire parler de lui. Et puis surtout, juste avant qu'il sorte l'Early Access, il y avait Don't Starve qui avait fini de sortir dans sa V1. Il venait juste de sortir, donc la première version. Et donc, qui était ce jeu de craft, de survie, comme ça, procédural de chez Clay, qui avait une cote de popularité assez monstrueuse.
Lui encore, aujourd'hui, Don't Starve. Encore aujourd'hui, oui, sous cette version. Enfin, ça continue à être vraiment le jeu de fond de Clay, même s'ils ont Griftland, qui est très bien, je vous recommande, ainsi que Oxygen Not Included aussi.
Oui, c'est vrai qu'ils
continuent de sortir pas mal de petits jeux.
Mais
c'est vrai que
Don't
Starve, maintenant, c'est devenu
leur truc qui permet de financer le banditos. Tu vois, il suffit de tirer sur la manette et l'argent coule à fond.
Dans le jeu Clay, un jour, on l'a pas fait.
C'est vrai, on ne l'a pas fait. Peut-être qu'on le fera un jour.
La liste.
Don't Starve est sur cette grande liste.
Oui, oui, c'est vrai.
Elle n'est pas sur la blacklist, elle est
sur la whitelist.
Très bien.
C'est Hugo qui commence à transpirer du genre putain, mais
alors,
je joue à vos jeux.
Ça
là.
Va, non, mais après, je pourrais regarder les guides d'Exerf, donc ça va, tu vois, je peux m'aider. D'autres inspirations, cette fois pas dans le jeu vidéo, c'est notamment deux films de James Cameron, Abyss, donc le fameux. film, voilà, sous la mer, des choses, il se passe des choses étranges. Et puis Avatar, beaucoup plus populaire, on va dire.
Ben oui, voilà, oui. Les... Avec les quatre nations, le feu, la terre, l'eau, tu oui, vois, oui, et Aang, fait, qui est voilà.
Non, oui, oui, non, zut, c'est pas cet avatar-là. Ben
c'est l'autre avatar.
Désolé, c'est celui, celui avec les grands trucs bleus. Oh, oh là là.
Allez.
Oh là là. Oh là là. Non, c'est vrai, c'est pas ouf.
Parce que le,
c'est Pocahontas.
Parce que le fameux Charlie Cleveland est un gros fan en fait de James oui. Cameron, et d'ailleurs Natural Selection est complètement basé sur Aliens, donc ouais. Alien 2,
un autre guillemets, ouais,
un film de James Cameron. Il a dit, il l'a vu une centaine de fois. Il dit voilà, quand je me sens
oui,
pas
oui,
bien,
j'ai vu ça.
Hop, je me mate un
je
petit,
regarde le petit Alien voilà. Et je suis bien.
Chacun, chacun
ses vies. Effectivement, donc voilà, ça c'est vraiment les grosses influences, et donc l'idée de faire un jeu non violent, et bah, c'est là-dedans qu'ils vont s'engouffrer en partant un petit peu sous l'eau. Alors il me semble qu'au début ils voulaient
faire un jeu
dans
l'espace. Et en fait assez rapidement ils se sont rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeux en même temps que eux commençaient à avoir ces idées-là qui commençaient à s'annoncer comme étant des jeux.
On parlait de No Man's Sky
oui,
déjà.
Oui, il y avait déjà du No Man's Sky.
Ouais, on en parlait.
Je pense qu'on devait déjà
2013,
en parler
2014,
on devait commencer à en entendre
ouais,
parler.
C'est possible.
Peut-être Star Citizen aussi déjà un peu à l'époque. Bah, à force, je sais
c'est
plus
possible,
quand on en parlait.
C'est possible,
oui, c'est vrai que.
C'est
bah, il y a moyen.
Non,
ouais,
puis même d'autres, il devait y avoir Faster Than Light. En fait, en gros, il y a eu une espèce de période qui s'est lancée d'un coup avec pas mal de jeux qui se déroulaient dans l'espace ou a priori, voilà, soit sur des planètes extraterrestres ou quoi. Et ils ont eu peur, tout simplement, de se retrouver au milieu d'un marché qui pourrait être bouché au moment où ils allaient sortir leur jeu. Donc, ils ont préféré shift un petit peu leur prise de on va dire, leur position et ils se sont retrouvés sous l'eau. Tout simplement.
Exactement. Ouais,
et voilà. Ça, pour le coup, bah, c'est assez original parce que finalement, des jeux qui se passent sous l'eau, il n'y en a pas des millions. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant à noter, c'est que de prime abord, c'est a priori une mauvaise idée.
Ouais,
c'est vrai, quand on en a parlé entre nous et eux, ils l'expliquent dans une. Dans, on va souvent citer une longue interview qui est parue chez Ars Technica, si jamais ça vous intéresse, de Charlie Cleveland. Où il explique que donc à l'époque Unknown Worlds appartenait à Perfect World, donc qui est un éditeur chinois qui est connu pour le jeu MMO éponyme Perfect World qui est sorti je sais plus combien en 2004 ou un truc comme ça. Et bref, ils éditent des tas de jeux dans le monde, ils ont financé des tas de studios et ils ont racheté à ce moment-là Unknown Worlds et quand ils leur ont présenté cette idée
enfin,
d'un jeu sous l'eau,
oui
ils avaient des parts majoritaires, ils n'avaient pas 100% du studio qui leur appartenait pardon. Ils ont présenté ce jeu sous l'eau et ils ont dit ah, un jeu sous l'eau. Les temples de l'eau de Zelda et tout, c'est un peu de la merde.
Non,
on n'aime pas trop.
Bah, en vrai, oui, les passages aquatiques, c'est quand même quelque chose.
Ça fait peur un peu hein, dans les jeux
vidéo.
Ça fait
peur, on se sent limité dans nos mouvements et tout. Mais parce que, en fait, souvent dans les autres jeux, aller dans l'eau, c'est on perd justement d'autres mouvements. Typiquement, Zelda, je sais pas, tu peux pas taper avec ton épée, c'est chiant. Alors que là, effectivement, tout le jeu va être dans l'eau, donc c'est pas tout à fait le truc. Mais ils ont quand même réussi à pouvoir faire ce qu'ils voulaient, partir sur ce truc, voilà, sous l'eau, avec toujours garder, en fait, une émotion vraiment. En termes qui va un peu dicter le reste du design, c'était cette idée d'avoir cette émotion qui était le thrill of the unknown, hein, un petit peu le frisson de l'inconnu. Exactement. Et puis, il parlait de Genova Chain,
ouais,
hein, c'est
fait,
ça, dans la conférence.
Ils ont décidé de vraiment mettre l'émotion avant tout dans le design. Ils parlent des piliers aussi, c'est quelque chose dont ils s'inspirent pas mal chez Blizzard, par exemple, ils les citent. Donc, les piliers, c'est un peu ces notions de dès que tu te poses une question un peu de design ou qui va concerner là, hop, tu regardes les piliers, tu dis quelles sont vraiment les choses qu'on veut transmettre, vers quoi tout doit converger. Il y en a plusieurs, mais au final, celui qui est resté le plus important et qui a vraiment demeuré le plus longtemps, c'était ça, le sentiment de découverte, qui est une émotion, du coup, c'est un pilier émotionnel, entre guillemets. Et il parle de Genova Chain, où ils avaient une approche comme ça, justement, d'avoir l'émotion qui prime avant tout.
Ouais, en fait, il citait du coup Journey et tout un tas d'interviews qui étaient sorties après la sortie du jeu, où Genova Chain expliquait justement comment ils étaient parvenus à faire un jeu non violent. Parce que ça, forcément, pour des designers de jeux qui avaient fait 2 FPS dans leur carrière sur 12 ans, bah c'est pas si naturel que ça, malgré Natural Selection.
Après, on peut recommander une émission Fin du Game
et
qui
oui.
parle de Journée.
D'ailleurs,
oui, on vous explique tout ça.
C'est
comment,
très bien cette émission.
Mais
putain,
oui,
mais
voilà, on vous le dit.
Et merci Hugo d'en parler.
Mais moi, j'ai envie de donner un petit shout-out comme ça à des émissions.
Sous-côté, Fin du Game.
Est-ce que Fin du Game n'est pas sous-côté, je pense.
Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'un des premiers trucs, il l'appelle même un proto, tu vois, un des premiers protos, le premier proto vraiment de Subnautica, c'est juste le menu. Avec une musique. Il dit, voilà, la musique, on part un petit peu de là, une musique un peu... J'ai pas le vocabulaire musical, mais voilà, ce côté découverte, émerveillement,
un
peu
mystère.
Il y a
un peu des nappes,
voilà,
un peu comme ça, on est porté, effectivement.
Voilà. Vous voyez pas, mais quand on explique, on fait des mouvements avec les mains.
Ouais, c'est vrai que c'est très radiophonique, on est là, en train de danser
un peu, ouais,
autour
un peu
de nos
mystérieux,
micros.
Des nappes, machin.
Bah, vous prenez vos mains, vous les mettez un petit peu, ça. Elles bougent devant vous, et ça y est, vous pouvez comprendre ce qu'on fait. Très bien. En tout cas, tout ça pour dire que voilà, fin 2013, ils se lancent dans l'aventure de l'Early Access. Pourquoi, Maxime, ils se lancent en Early Access ? Deux raisons.
Ils ont pas de thunes. Ils ont plus de thunes.
C'est la première raison, effectivement. Ouais, ils étaient quand même un peu en difficulté, quand même. Malgré
oui, alors en fait, juste pour essayer de replacer les choses, parce que ça peut paraître un peu étrange. Donc, en gros, effectivement, ils appartiennent, en majorité, ils appartiennent donc à Perfect World, mais ils agissent pas vraiment comme un éditeur. C'est-à-dire qu'ils leur ont pas imposé leur vision ni quoi que ce soit. Ils sont là comme des consultants, on va dire, et ils leur laissent faire leur truc. C'est juste qu'ils les ont prévenus que, bon, bah, ils risquaient de pas gagner d'argent. Effectivement, le fait est que le développement du jeu a bouffé pas mal de leurs ressources financières et que ils se sont retrouvés vraiment à la dèche. Et là, ils en étaient au point où c'était l'urgence. C'est-à-dire qu'il leur restait un ou deux mois de trésorerie et après, ils mettaient la clé sous la porte.
Ils ont, en gros, ils ont 3 millions de dollars en termes de budget. Donc avec ces 3 millions, ils ont fait des protos, machin, ils ont fait toute la pré-prod et ils ont sorti une démo qui était jouable, il dit PAX East 2014. C'est la première fois qu'une démo était jouable pour du public. Et peu de temps après, donc c'est l'Early Access, on l'avait dit,
décembre 2014. Je me suis trompé, pardon, je disais 2013, c'est effectivement décembre 2014.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est quelques mois plus tard.
Donc quelques mois après, ouais, c'est 6 mois après, voilà, ils disent, en fait, ils ont plus d'argent, ils peuvent pas sortir Subnautica concrètement, donc ils font une Early Access et il y a à peu près, ils disent, 5 heures de contenu. Et là, c'est le défi, c'est qu'il faut attirer suffisamment de joueurs qui achètent du coup et qui amènent de la trésorerie et... pendant le laps de temps supplémentaire que ça leur achète, quelques mois au maximum, créer suffisamment de contenu pour encore attirer de nouveaux joueurs et ainsi de suite.
Ouais, ils se sont vraiment retrouvés dans une situation assez compliquée, on va dire, en termes de finances, qui les a mis dans une sorte d'urgence. Ils étaient tout le temps dans une espèce de fuite en avant. Mais c'est ce qui a donné, en fait, vraiment cette, on va dire, cette approche complètement... on va dire pas différente, parce que l'Early Access c'était quand même quelque chose d'assez nouveau en 2013-2014.
Ouais,
on n'avait pas
avait
non
déjà
plus
des
beaucoup,
choses, mais... oui, ça commençait à arriver. Hein. On avait dit que c'était quand ? C'était 2011, je crois que ça commence.
Un truc comme
un
ça.
Peu,
ça fait quelques années qu'on sait que ça existe. Steam a vraiment mis en place son délire d'Early Access plus ou moins à cette période-là. Ouais. Donc ça a vraiment pris ce nom, ça a été formalisé et tout. Et en gros, Unknown Worlds ont vraiment défriché le terrain pour pas mal d'autres gens parce qu'ils avaient cette urgence et ils ont donc vraiment voulu jouer la carte de la transparence. Avec leur communauté, notamment ils avaient vraiment leur planning de production sur Trello qui disait cette semaine Roger travaille sur ça, Micheline travaille sur ça, ainsi de suite.
C'est que des vieux français qui bossent.
Quand j'invente des prénoms de tête,
en général c'est
français,
ces gens-là. Ouais, tout à fait, effectivement, c'est vrai que
d'ailleurs aux États-Unis il y en a beaucoup, Charlie Cleveland, Roger, Micheline.
Mais effectivement, il y avait ce Trello qui était disponible et il y a une vraie démarche de transparence qui s'est mise en place. Et puis surtout, je pense que, comme tu le disais, il n'y avait que 5 heures de jeu. Le jeu n'était en fait pas du tout, même pas... ils ne savaient même pas vraiment où ils allaient encore avec ce jeu. Et justement, l'Early Access, en plus de leur apporter de la trésorerie, parce qu'après, on a regardé, ça a rapporté quand même 7 millions, c'est ça,
oui,
pendant
en fait,
toute la phase d'Early Access.
En conclusion, on va venir un petit peu sur toutes les étapes, comment ça s'est déroulé, mais en gros, il y a eu cette course contre la montre, où c'était compliqué, et finalement, au bout de, alors je sais pas, est-ce que c'était 6 mois, 1 an ou quoi, là, ils ont produit suffisamment de contenu, ils ont bien adapté l'Early Access, et en tout, l'Early Access, sur les 3 ans, peu plus de 3 ans que ça a duré, ça leur a apporté 7 millions. En fait, il y a eu un déclic vraiment à un moment où c'est bon, ils ont ramené suffisamment de contenu, il y a des streamers qui ont joué, il y a eu Jacksepticeye, qui est un très gros streamer en anglais, je crois. Et c'est bon, après l'Early Access, au bout d'un moment, ça s'est très bien passé. Mais au début, c'était compliqué.
Voilà. Et du coup, l'Early Access, donc je disais deux avantages. Donc, le premier, c'est évidemment l'argent. Mais le deuxième aussi, c'est d'avoir inclus tous les retours des joueurs, des joueuses dans la production. Parce que, encore une fois, ils avaient ces grandes références. Abyss, Don't Starve, le côté pas de violence. Mais c'était pas non plus très très clair où ils voulaient aller. Déjà, c'était au début, Charlie Cleveland, lui, voulait faire du procédural. Il y avait un côté où c'était un jeu coop où on allait être à plusieurs dans un sous-marin, avoir plusieurs rôles, etc. Donc c'est des choses qui ont changé, puisque le jeu, c'est un jeu solo aujourd'hui qui est dans un monde ouvert qui n'est pas du tout procédural. Et puis surtout tout ce délire de survie aussi, ça c'est quelque chose qui s'est rajouté vraiment assez tard même dans le développement. C'était quand les gens jouaient, en fait, comme ils avaient l'habitude de jouer à des jeux de survie, ils s'étonnaient qu'il n'y avait pas la bouffe, la faim et la soif, pardon. Et c'est quelque chose qu'ils ont rajouté en disant ok, on va rajouter ça. Et c'est vrai qu'en plus ça permettait d'initier un petit peu les gens à la boucle de base du jeu.
Puis il y avait assez peu de créatures aussi, ils avaient les fameux Reefbacks, donc ces espèces de baleines un peu avec des tentacules, et ils ont vu quand même que les joueurs étaient vraiment émerveillés par ça. Ils s'en sont dit, ouais, ça, il faut qu'on le garde, c'est vraiment un sentiment important. Et du coup, on va rajouter encore des grosses bébêtes. Et il y a eu, du coup, est venu aussi le côté un peu horrifique, un peu inquiétant. Ils vont mettre pour le coup des monstres vénères qui t'attaquent, puisque évidemment, il y a le fameux Reaper, qui est une espèce de gros truc avec des crochets sur les côtés et qui peut vraiment te faire une espèce
de jumpscare. Les gens qui ont joué, vous savez
ce que c'est, Reaper.
Ils le disent, en inconscient, ils disent c'est peut-être 50% de nos ventes. Parce que à partir du moment où ils ont commencé à mettre ça et que les streamers y ont joué, là c'est bon, t'as eu toutes les compilations de jumpscare, de tous les gens qui ont vu ça, qui ont paniqué, et ça a vachement vendu le jeu en fait.
Oui, il y a tout un passage dans cette interview qui est très intéressant, où ils prennent conscience au fur et à mesure de leur early access de l'importance de ce qu'ils appellent le spectacle, et du coup de l'impact qu'ont les vidéos YouTube et les streams Twitch sur les ventes de leur jeu. Donc il y a vraiment un lien avec ça, et donc ils se sont rendus compte qu'avec des vêtements, tu citais l'exemple du Reaper ou du Reaper, c'est des moments comme ça, clés, qui veulent que les gens vivent, et du coup ça va donner envie aux gens d'en partager, d'en parler, et ça c'est ce qui va un peu enclencher en fait la machine de vente et qui va faire que Subnautica va devenir un succès.
Et puis ce qui est cool, c'est que c'est vraiment du coup ce que les gens vivent en jouant qui vont dicter en fait le design par la suite. Il y a vraiment cette boucle, puisqu'ils vont se dire bon bah du coup il faut qu'on crée plus de moments comme ça, qu'on essaie d'appuyer plutôt dans cette direction là et de laisser de côté du coup des choses sur lesquelles on serait parti et qui seraient pas forcément très pertinentes pour les joueurs.
En fait ces moments c'était vraiment un besoin, parce que au bout d'un moment ils se sont rendu compte que voilà, comme disait, il y avait course contre la montre, pas beaucoup de contenu et tout, et les joueurs ils disaient bon, on voudrait quand même pouvoir tuer les bestioles, tu vois, vraiment avoir des armes pour pouvoir se défendre, des harpons. Ils disaient non, ça pour le coup c'est hors de question. Ils ont quand même fait une concession, c'est de filer des outils. Il y a une espèce de stase,
un fusil qui
crée une espèce de bulle et ça paralyse la créature dedans pendant, je sais pas, 30 secondes. Une espèce de truc qui repousse aussi très violemment les trucs de taille moyenne. Je suis pas sûr que ça marche sur un Reaper, peut-être, honnêtement.
Bah, sur l'Issimote, t'as le système de défense électrique qui fait quand.
Mais moi, je parlais d'un truc vraiment que tu tiens dans la main.
Ah, pardon, oui.
Et
oui,
tu peux Et après, oui, il y a des torpilles, en tout cas avec le Vortex et tout, sur Issimote, ou peut-être du coup qui repousse le Reaper, comme tu dis. Et ça, c'est une concession. Tu sens que même toujours Charlie, quand il en parle, il est pas fan, tu vois. Tu sens que s'il avait l'argent, sur le moment, il l'aurait quand même pas fait. Mais bon, voilà, c'est aussi le.
Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais il y avait aussi cette intention vraiment de faire que notre personnage se retrouve un peu à sa place, soit remis à sa place dans son écosystème, soit, voilà, tu n'es qu'un humain dans un environnement hostile, donc tu ne vas pas arriver. C'est pas un de ces jeux de survie où on va arriver au fur et à mesure tout en haut de la chaîne alimentaire. Non, tu seras toujours, il y aura toujours bien plus gros poissons que toi. Et l'idée, c'est quand même de faire ressentir ça. Et c'est vrai qu'ils ont fait le choix, malgré, je trouve, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que d'un côté il y a le retour des joueurs joueuses sur plein de choses, et puis il y a d'autres choses où c'est le studio qui a dit non, on ne mettra pas d'armes là-dedans, quoi.
Mais du coup il y avait quand même ce besoin de dynamiser l'expérience, pour en revenir à ce que tu disais, où là il allait avoir ces moments, du coup le moment Riftback est un peu le moment Jurassic Park jeu, les créatures qui créent une tension. Il parle aussi par exemple du Cyclope, donc il y avait une idée, c'est que tu peux lâcher des leurres pour que les créatures s'éloignent. Mais aussi, ce que les joueurs disaient, c'était que c'est un peu chiant quand t'es dans le Cyclope et que tu te fais attaquer, il se passe un peu rien, et là ils ont commencé à avoir l'idée de pouvoir éteindre les lumières, pouvoir éteindre les moteurs pour que ça fasse plus de bruit ou quoi. Ils s'inspirent de deux films, il y a Poursuite de l'Octobre Rouge et un autre film dont j'ai oublié le nom, mais qui se passe aussi dans un sous-marin. Il y a toute cette tension en fait, il n'y a pas d'affrontement forcément direct, c'est plus la peur de se prendre une torpille où tu sais pas de quel côté elle va venir, ou de se faire discret, est-ce que la pression de l'eau va t'écraser. Et il y a ces moments là où vraiment le Reaper il passe à côté de toi, t'éteins les lumières, t'éteins le moteur, tu pries pour qu'il parte, et ça c'est un moment de
jeu. Il y a plein de boutons différents à appuyer, donc il faut bouger, il faut vraiment se déplacer dans le sous-marin pour pouvoir activer, faire ces petits trucs. Donc il y a quelque chose de très ludique, et c'est vrai que c'est intéressant. Ils sont arrivés à aller à créer du jeu, mais qui ne soit pas basé sur des mécaniques de violence, etc. Et puis dernier point là-dessus que je trouvais qui était un détail intéressant, c'est que du coup, même si on va essayer de tuer les bestioles, il n'y aura pas de récompense à les tuer, on ne va pas pouvoir les looter. Il n'y a pas ce truc-là qui est souvent le cas dans les jeux de survie, où vous allez tuer une bestiole et puis je sais pas, vous allez récupérer ses poils, ses machins. Moi je me souviens, j'avais voulu tuer les rôdeurs pour récupérer leurs dents. C'est pas comme ça qu'il faut faire, ça marche pas. Et c'est intéressant, voilà, cette idée de ne pas mettre de récompense, et puis même de pas rendre la mort des bestioles cool et fun à faire, pour vraiment éviter toute envie de ne plus nous inciter à faire ça.
C'est vraiment une volonté de designer, c'est-à-dire qu'ils se sont posé la question de comment on empêche les gens d'être violents. Donc c'est pour ça qu'il évoquait justement Genova Chen, qui s'était posé des questions similaires avec Journey, etc. Et donc l'idée de ne donner vraiment aucun feedback quand tu tues une créature et que tu vois juste la créature qui meurt et qui remonte à la surface, il n'y a pas de loot, il n'y a pas de bruit. Il explique que le seul truc qu'ils ont fait, c'est que je crois qu'a priori il y a des petites volutes de sang qui doivent se balader dans l'eau, mais c'est tout.
Mais c'est pas
mais il n'y a rien, t'as aucune récompense, exactement, en fait. Donc, si t'as pas de récompense, là, on est vraiment dans du game design assez abstrait, mais en fait, on est motivé par des récompenses dans un jeu vidéo, et donc, si le jeu vous renvoie quelque chose par rapport à vos actions, vous aurez tendance soit à être renforcé dans vos actions, soit à être poussé. Mais s'il se passe rien, bah, en fait, naturellement, vous allez arrêter de le faire. Quand vous faites une action qui ne sert à rien, bah, vous ne la faites plus, tout simplement.
Pas de dopamine, pas le petit... le petit cloupiote qui s'allume dans le cerveau, et voilà, ça marche pas.
Un autre truc intéressant, parce qu'on est toujours là, on est en fait dans le plan, grosso modo, on est en train de faire tout ce qu'ils ont apporté vraiment en termes de contenu avec le retour des joueurs et tout. Et il y avait aussi donc l'Aurora, qui est donc l'épave du gros vaisseau. Nous, on sort de notre capsule de sauvetage et il y a l'épave de l'Aurora devant nous, c'est la seule chose qu'on voit à la surface. Et beaucoup de joueurs voulaient y aller au début. Et en fait, c'était pas du tout modélisé, c'était juste
une texture
image
au début,
loin. Et ils nageaient pendant 10 minutes et le truc se rapprochait jamais.
C'était dans la skybox limite. Un truc collé.
Ouais, c'est ça. Et à un moment, ils ont dit bon, non, il faut quand même qu'on le fasse parce que tout le monde a envie d'y aller. Donc voilà, il faut faire quelque chose. Et effectivement, c'est un moment important du jeu. Il va se passer des choses là-bas.
Oui, je trouve ça super intéressant parce que tu dis oui, c'est vrai que quand t'arrives, tu crashes, t'es dans une planète qui est recouverte à quasiment 100% de flotte. Bah, le seul truc que tu vois, t'as envie d'y aller en fait. Et le fait qu'ils y aient pas pensé sur le coup, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a eu vraiment ce dialogue qui s'est fait entre les gens qui jouent au jeu et l'équipe de développement et où eux en fait comprenez au fur et à mesure ce que les gens attendaient et ce que le jeu voulait être. Mais quelque chose qui est important à noter, c'est qu'ils ne sont pas dans une logique de... c'était pas une espèce de démocratie, tu vois, participative non plus, où c'est les gens qui décident non-stop. C'est, hein, c'est pas la télé-réalité, quoi. C'est, tu vois, envoyer un pour le Reaper,
la télé-réalité, c'est les producteurs qui décident, moi, voilà. Hein.
Non, mais tu vois ce que je veux dire. On n'est pas dans une logique où c'est les gens qui décident 100% des prochaines évolutions. Ils avaient quand même leur vision au départ, mais ils ont réussi à comprendre dans les retours des gens, à vraiment en extraire ce dont ils avaient besoin comme information pour vraiment appuyer, comme on le disait, sur quelques leviers qui collaient à ce qu'ils avaient envie de faire.
De toute façon, c'est le taf de designer. C'est l'importance des playtests. Hein. Là, c'est un peu une espèce... C'est quand même des playtests.
Hein,
Et le job du designer, c'est pas d'appliquer ce que les joueurs te disent qu'ils veulent, c'est de vraiment identifier quelle est l'émotion, quel est le truc. Et par exemple, si le joueur te dit... Les combats sont trop durs, faites en sorte que je fasse plus de dégâts. Non, toi, ton job en tant que designer, c'est juste de dire, ok, il trouve ça trop dur, mais c'est à moi de voir quels sont tous les leviers sur lesquels je peux influencer. Je peux baisser la vie des ennemis, je peux mettre plus de couverture, en fait, il y a plein d'autres choses que tu peux faire. Il faut pas écouter vraiment le retour concret du joueur. C'est pas ton job, ça va être de trouver comment changer l'émotion de base.
Discernement par rapport au retour. Mais voilà, effectivement, comme tu le dis, c'est vraiment le travail des designers. Et du coup, il y aura quand même 30 grosses updates. Alors ça, c'est des updates un peu formalisé avec des noms et puis après il y aura des milliers de petits fixes chaque jour. Je sais que pendant une période toutes les demi-journées il y avait la nouvelle version qui était uploadée comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que on le disait un petit peu, eux ils ont un peu défriché ce truc d'early access. C'est vrai que maintenant il y a des exemples où disons que c'est beaucoup plus cadré, il y a des vraies bonnes pratiques maintenant qui sont dessinées pour prendre des jeux récents. Je pense à Dead Cells, je pense à Hades aussi. Là c'est pas des jeux qui sont arrivés en early access vraiment en savant pas ce qu'ils allaient être, qui allait se découvrir comme ça. Non, il y a un truc très très cadré, avec un plan de com bien rodé, différentes updates, une feuille de route où on dit à tel mois il y aura ça, ensuite dans 3 mois il y aura ça, mais quand même qui intègre les retours des joueurs joueuses. Et c'est vrai que ça c'est un peu c'est un modèle aussi qui a évolué, et maintenant on voit des studios qui se sont vraiment appropriés pour en faire quelque chose d'assez chouette.
Et justement tout ça a été vraiment formalisé par Unknown Worlds et Subnautica. Typiquement l'équipe de Dead Cells, en fait, à chaque fois que j'avais eu l'occasion d'en parler avec eux et qui expliquaient du coup leur démarche marketing par rapport à l'Early Access, ils prenaient en exemple ce qui s'est passé avec Subnautica. L'idée de dire, quand il y a une grosse mise à jour, on va créer un artwork spécial, on va donner un nom thématique à la mise à jour. Ça sera la mise à jour poil à frire pour mise à jour, dans Subnautica, la mise à jour Simoth, la mise à jour ceci. No Man's Sky a fait la même chose par la suite. Enfin, et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des jeux ont repris comme ça cette logique de vraiment faire un mini événement de chaque grosse mise à jour. Ça permet de générer du contenu par les influenceurs, créateurs, vidéastes, etc., par les médias également, qui peuvent en parler en disant « Ah oui, tiens, il y a la nouvelle mise à jour, vous pouvez filer du coup des assets, un trailer, etc. » Donc les gens peuvent faire des news. Donc en gros, ça permet de faire parler de son jeu, de vraiment intéresser sa communauté, et en fait, il y a vraiment tout un cercle vertueux qui se crée autour de ça. Donc ils ont vraiment formalisé tous ces trucs-là, et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous regardez un Hades, à chaque fois qu'il y avait une grosse mise à jour, on avait l'artwork spécial, tel personnage, tel machin.
Je pense que c'est vraiment... Peut-être peut-être qu'on en parlera d'ailleurs un jour, mais c'est vrai qu'en termes de early access, on est sur une masterclass, tu vois, vraiment comment bien faire les choses. Voilà, ils ont vraiment bien pris le temps de regarder ce que faisaient les copains.
Ils ont prévu quand est-ce que sortaient les épisodes de Noclip et tout. Enfin, ça, ils ont vraiment intégré tout la com.
Très calé.
Bah maintenant, oui, en 2020, il y a des bonnes pratiques.
2021,
mais il y a des bonnes pratiques de l'early access maintenant, mais à cette période-là, grosso modo, on l'a dit, entre 2010-2015, bon, c'était un peu le début, on tâtait un peu. Je sais pas si, par exemple, Canard PC le fait toujours aujourd'hui, mais à l'époque, t'avais vraiment des tests d'early access, mm-hmm. et c'était en mode, attendez, genre, le jeu, il est pas encore vraiment bien, ou fuyez carrément, ou c'est bon, allez-y... C'est ça, ouais.
On les salue, évidemment, Agbou, tous ces gens-là, on les embrasse.
Champion de GeoGuessr.
C'est vrai qu'il y a des choses comme ça. Tout ça pour dire, en tout cas, bah, que ça s'est quand même, finalement, tu le disais, bien passé pour Subnautica. Beaucoup de ventes de l'Early Access qui ont généré suffisamment de revenus pour que la version finale sorte. Et aujourd'hui, on est à près de 5 millions d'exemplaires vendus de Subnautica. C'est quand même pas rien, hein, il faut le dire.
J'imagine que ça compte quand même les achats à l'époque de leur
Access. Oui, c'est en tout. Et puis, il a aussi été offert sur l'Epic Game Store, donc ce qui a dû rajouter quand même quelques joueurs, joueuses dans
juste en termes de nombre, il y a les chiffres, hein, c'était 4,5 millions de personnes qui ont pris le jeu gratuit sur l'Epic Game Store, donc en plus des 5 millions achetés. Bon, après, voilà, combien est-ce qu'il y en a qui l'ont juste pris sans y jouer?
Oui, et puis combien l'avaient déjà sur Steam et par réflexe le prennent aussi sur l'Epic Game Store. Bah oui, on ne sait jamais. Steam cool. voilà, je l'ai sur l'Epic Game Store, tout va bien.
Mais en très très gros, il y a peut-être 10 millions de personnes, on va dire, voilà, dans la tranche haute, peut-être 10 millions de personnes qui ont joué à Subnautica.
Et puis qui a été bien reçu par la critique. Alors,
sur
fait
PC,
le tour,
c'est 87.
Très bien, Max.
Et sur PS4, je crois, c'est un peu moins. Ça doit être, c'est soit 83, soit 83, je crois, Xbox et PS4.
Il faut dire que les versions consoles, je crois qu'il y a quand même des petits soucis de clipping. Ils ont fait des choix en fait, d'optimisation qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui apparaissent au fur et à mesure. Et c'est pas très, très agréable à jouer là-dessus.
En fait, le jeu, comme on l'a dit, c'est qu'il s'est un peu développé avec le temps. Forcément, il y a des idées qui sont venues sur le moment, d'autres qui ont été jetées. Il y avait tout un projet de faire une espèce d'écosystème un peu cohérent. Il y avait on pouvait terraformer un peu le sol, on pouvait à la Minecraft vraiment creuser le sol, le jeu il a ça de prévu, et à la fin ils l'ont enlevé, mais ça traîne toujours, tu vois, dans le code. En fait, le jeu il a l'air d'être bien lourd, de se traîner quand même beaucoup de choses. Il y a un peu une dette un peu technique à ce niveau là donc sur PC, forcément il tournera un peu mieux. Et d'ailleurs, on vous le dit au cas où, mais quand il sortira sur Switch, attendez peut-être les tests,
ça sera peut-être compliqué. Et puis du coup, bon retour critique, un jeu qui a un culte quand même aujourd'hui assez important, hein, quand on l'a annoncé sur le Discord, ça a fait plaisir à du monde. Voilà, c'est le fameux Subgotica.
Mais bien sûr, effectivement, grosse claque de 2018. Mais c'était une super année, hein. C'est vrai, quand on regardait, c'était l'année Hollow Knight, Subnautica,
Into the Breach,
Nier aussi.
Non, c'est Automata,
ça. C'est 17.
Enfin, voilà,
non,
on a vu.
Il y a eu God of War. Non, c'était 2018. Big Gear.
Red Dead 2, je crois que c'est 2018.
Aussi, effectivement.
Oui, bah, il y avait forcément quelques ratés. Hein, forcément.
Oh là 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 là.
J'approuve ce message.
Allez.
Mon Dieu, je n'approuve pas. Très bien.
Si on parlait du jeu.
Oui. On va pouvoir rentrer dans l'histoire de Subnautica. Vous connaissez notre structure habituelle. Et c'est Benoît qui va nous conter l'histoire de la planète 45-46B. Que s'est-il passé sur cette planète, Benoît?
Il était une fois, sur la planète 45-46B.
Non, mais pardon, c'est parti dans cette direction. Donc bref, on va essayer de garder un minimum notre sérieux, effectivement. Voilà, donc on est dans l'espace, tout simplement. On est dans le même univers que Natural Selection,
on le sait.
Donc des aliens qu'on appelle les précurseurs sont tombés par hasard sur cette planète qui est massivement recouverte de flotte. Et ils font la découverte assez rapidement d'une bactérie extrêmement dangereuse qui s'appelle le Kara, qui envahit toutes les formes de vie vivantes, les corons, les parasites, les contrôles. C'est la merde. Et en fait, ils n'arrivent pas à en venir à bout. Au bout d'un moment, ils commencent à faire des recherches, ils se rendent compte qu'il y a une espèce qui s'appelle les empereurs des mers, qui sont capables de sécréter une enzyme qui détruit en fait tout simplement cette bactérie et qui est donc leur ennemi naturel. Ils téléportent, grâce à la magie Stargate, des empereurs, enfin un exemplaire de 6 empereurs.
Un exemplaire.
Enfin non, pardon, un spécimen. Un exemplaire.
C'est
volume
4,
voilà, c'est mon préféré. Le spécimen donc que vous rencontrez à la fin de l'histoire qui est téléporté, mais le fait est qu'en fait, ce truc-là, il est conscient que lui, il est beaucoup trop ancien pour pouvoir sécréter ces fameuses enzymes. Mais le problème, c'est que les aliens, les précurseurs, sont incapables de communiquer avec les six empereurs. Il y a vraiment un choc des civilisations.
Ils sont vraiment une espèce, entre guillemets, intelligente, ouais. qui a un langage, qui peut communiquer.
Ah oui, ils ont la technologie
avec,
et tout, mais
voilà. Pas avec les aliens. Ouais.
Pas avec ces aliens-là, ils n'arrivent pas à communiquer ensemble. Et donc, bah, malheureusement, ils vont être bloqués. Et donc, la solution qu'ils ont dans ces cas-là, vous le savez, c'est le confinement.
Oui.
Ils ont décidé de mettre la planète en quarantaine et d'installer une énorme tour rayon laser qui détruit, en fait, tout simplement.
Tout ce qui sort, tout ce
qui
rentre.
Tout ce qui sort, tout ce qui rentre, voilà. C'est voilà, la planète n'a pas le droit. Donc voilà, la situation, bah, au bout d'un moment, le fait est que les aliens, bah, ils sont morts à cause de cette fameuse bactérie, donc ils sont tous morts. Des milliers d'années plus tard, je ne sais plus exactement combien, un premier vaisseau humain, le Degasi, arrive aux alentours de la planète 45-46b, se fait défoncer, parce que bah, le laser, il est là pour ça, il passait trop près. Et donc, il a craché dans son yop, et là, boum, directement dans l'eau. On va suivre en fait les traces de ces premiers survivants-là, nous, plus tard, parce que 10 ans plus tard, une autre mission est envoyée un petit peu de sauvetage, on va dire, pour inspecter ce qui se passe dans cette région-là de l'espace. Pourquoi on a des vaisseaux qui disparaissent?
Une mission d'ailleurs un peu secrète. Ouais,
c'est l'agenda, tu sais, c'est un peu le secret agenda du capitaine qui a cette mission.
Oui, j'oublie un peu les détails parce que je me demande si dans le Degasi il n'y avait pas une histoire de famille riche ou quoi et qui demande au pilote de l'aura ou au capitaine de l'aura de voilà, vas-y, passe par là.
Il y a des histoires comme ça.
Il y a plein de petits subplots. On les connaît pas tous. Je les ai pas tous notés parce que sinon j'y passerai très longtemps sur le truc. Le fait est, donc voilà, on a cette Aurora, donc c'est notre vaisseau à nous
qui lui aussi va se faire shooter voilà, par le laser.
On est malheureusement la seule personne survivante. On va en fait donc petit à petit s'adapter à notre environnement et comprendre que on doit construire avec les moyens du bord une petite base sous-marine, un petit simote, etc. On va essayer de retrouver les traces des balises de détresse de tous nos copains. En faisant ça, en fait, on va rencontrer pas mal de choses. On va rencontrer les restes des Degasi, on va faire un peu d'archéologie.
Oui,
on va
parce
découvrir...
que tout ce que tu as dit, on le sait pas.
Oui, nous quand on arrive dans le jeu, on ne sait rien.
Oui, on vous donne bien sûr la chronologie, effectivement, ce qui s'est passé, mais voilà.
Vous ne l'avez pas fait
tant
pis pour
game,
vous,
on spoil,
mais
vous connaissez, merci.
Vous connaissez le principe, voilà. Donc nous, quand on arrive, on va justement essayer de comprendre tout ça grâce aux balises de détresse et en se baladant un petit peu dans cet univers sous-marin. On va rencontrer donc les formes de vie extraterrestres, enfin on va rentrer en tout cas leurs bâtiments,
ouais,
les ruines de la civilisation.
Quoi, ouais, fait, ouais.
On va se rendre compte que nous aussi, on commence à être infectés par la bactérie Icara et que c'est pour ça que justement la planète nous empêche de sortir, parce que rien ne nous empêcherait sur le papier de fabriquer une fusée et de se barrer, mais on pourrait pas à cause de ce fameux rayon. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a d'ailleurs je crois qu'il y a un autre vaisseau qui se fait dégommer
pendant un vaisseau au bout de
c'est très tôt dans le jeu.
C'est aléatoire.
C'est aléatoire.
Il me semble que c'est quand même lié à la réparation de la radio.
Oui, c'est à partir de la radio, mais c'est quand même ça arrive quand même sur
aléatoire
sur une période. Mais ça arrive assez tôt,
c'est ce qui t'amène à Lille avec les aliens.
Exactement, ça arrive. En fait, tu les rejoins justement pile poil à Lille où il y a le laser, évidemment, tu vas arriver devant ce point-là, tu vois le laser, tu vois le vaisseau,
l'angle. Ouais, le canon, il tire sur le vaisseau, et puis après, il sort une craie, il fait 3, tu vois, sur un tableau.
Et du coup, voilà, c'est vrai que on va apprendre tout ça au fur et à mesure. On va donc les ruines aliens, on va comprendre cette histoire de bactéries en découvrant déjà un laboratoire sur lequel ils font des expériences pour justement essayer de communiquer avec les Sea Emperor, pardon, mais ça n'aura pas abouti. Il y a une prison aussi qu'on va visiter, une prison alien. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'enfonce sous l'eau, on découvrira donc le Sea Emperor qui est confiné. Et donc, avec ces trois. C'est 5, je crois qu'il y a 5 œufs, il me semble.
Ouais, quelque chose comme ça, ouais.
Dans les jeux vidéo, c'est 3 ou 5, de toute façon. Et l'idée, il va nous renvoyer un petit peu tout dans la planète, aller chercher des champignons pour faire une petite décoction qui permettra de faire éclore les petits bébés et qu'ils aillent enfin répandre l'enzyme. Et voilà, on désactive le laser des extraterrestres et on a fabriqué notre maxi-fusée. Je sais plus comment elle s'appelle, c'est pas une Jupiter, un truc comme ça.
Elle a un nom, mais j'ai oublié le nom.
Une connerie comme ça,
il me semble bien. La super fusée.
La super fusée. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut décoller dans l'espace. Alors, il y a un petit jumpscare où on se prend un truc dessus. Mais au final,
on arrive à s'en sortir. On peut même jeter une petite capsule temporelle. Ça, c'est le petit côté sympa où, en fait, ça sera découvert sous la flotte par d'autres joueurs ou joueuses qui joueront au jeu plus tard. Si
Dark
vous êtes connecté à Internet.
Toujours.
Mais vous l'aviez compris, évidemment, quand je l'ai évoqué. Et ensuite, en fait, on apprend que ça y est, on a réussi à échapper à la planète. La petite blague finale où la société pour laquelle on bosse, Altera, nous rappelle que tout ce qu'on a fait a causé des torts à l'écosystème de la planète sur laquelle on était bloqué, donc on leur doit une somme faramineuse.
Non, c'est tout ce qu'on ramasse en fait.
Oui, tout ce qu'on ramasse.
Ça appartient, et puis on fabrique, tu vois, je veux dire, donc on fait appel au service, tu vois, il y a un branding dessus.
En tant que salarié, tout ce que tu produis appartient à l'entreprise.
C'est Facebook, voilà, vous voyez, c'est tout ce que vous faites
Google,
sur Facebook,
ouais,
ça leur appartient.
Ça.
Dans le monde du jeu vidéo, c'est ça aussi, si vous développez votre petit jeu sur l'ordi de la boîte, c'est
pas ça se trouve, en fait, le jeu, il a un message hyper complexe, tu vois, sur l'industrie, sur pourquoi ils ont voulu racheter leur indépendance, et voilà, on en est là. Voilà,
et après, il y a la super musique que vous avez entendue tout à l'heure, parce que vous avez réussi à fuir cette planète. Alors là, on l'a raconté comme ça, l'histoire, mais en fait, le fait de découvrir par soi-même tout ça, ça fait partie, on va le redire, de vraiment la qualité de l'expérience de ce jeu-là. Mais là, voilà, on voulait vous raconter l'histoire pour que vous voyez un petit peu tout le truc global, parce qu'il y a pas mal de petits enjeux en parallèle.
Ce plot, c'est vrai qu'on a un petit iPad dans lequel il y a tous les entrées, justement.
Beaucoup,
on suit l'histoire des gazis qui ont commencé à faire pousser les melons, et oh là là, il y a des bestioles vivantes, et je suis descendu encore plus profond. Donc vraiment, on a toutes ces petites strates comme ça.
Et puis à un moment, on
tourne
dans l'aurora, on va découvrir qu'il y a eu des radiations,
oui,
on va découvrir ce qui s'est passé dans l'aurora, pourquoi ils savaient qu'il y avait déjà des trucs sur cette planète-là, et pourquoi la mission devait aller ici. Enfin, il y a vraiment, on découvre des choses tout au long de l'histoire.
Et c'est surprenant pour un jeu vraiment de survie. On pouvait se dire, c'est voilà, on pouvait croire que, et c'est ce que je croyais au début, c'est généré procéduralement, que c'était un peu à la Don't Starve, où t'as juste un début, une fin, et au milieu, bon, c'est un peu, tu vas faire un petit peu ta petite popote, découvrir un peu l'or dans lequel tu dois crafter des trucs, mais il y a un peu entre guillemets rien, alors que là, oui, il y a plein d'étapes en fait narratives, comme vous le disiez, et ça va être en fonction des profondeurs. On va découvrir voilà, l'histoire des aliens, l'histoire de ceci, de cela, et il y a une richesse en fait narrative à laquelle on s'attendait pas forcément.
Qui est un peu insoupçonnée comme ça au début, parce que bah t'arrives, en plus c'est un jeu où au début tu ne vois rien, c'est-à-dire tu vois vraiment juste l'aurora, mais tu ne peux pas deviner tout ce que le jeu a à t'offrir. Et ça, je pense que c'est vraiment une grosse réussite, parce que il y a beaucoup de jeux aujourd'hui, on sait à peu près, je sais pas combien y a de niveaux, où on, tu sais, on ouvre la map, on se dit bon bah voilà, là tout au bout de la map, je sais que ce sera le donjon du boss final. Je sais pas, tu vois, j'ouvre celle de Ghost of Tsushima, bon bah voilà, j'ai vu que c'est tout en haut, ce sera là que ça se passera
à la fin.
Il y a un truc extrêmement où on te déroule tout au début tout ce qui va se passer dans le jeu, et tu ne sortiras pas trop de ce cadre-là. Là, à l'inverse, Subnautica, c'est un jeu qui t'es sur toute ta toute petite capsule, tu sais, en plus bon bah quand tu démarres comme ça, tu vas pas très très loin, parce que tu peux pas aller très très loin,
non,
tu peux pas aller très profond,
secondes,
tu peux pas vivre très longtemps, parce que bah la survie, il faut que tu aies de la bouffe, donc tu peux pas non plus partir à Pétaouchnok. Et c'est vrai que c'est vraiment un jeu qui va dont tu vas découvrir finalement l'ampleur au fur et à mesure que tu avances dans celui-ci. Donc ouais, c'est vrai, quand on commence à arriver vers les trucs aliens, tu fais ah ok, on part dans une direction, je
m'y attendais pas
forcément, qu'on allait partir là-dessus.
Et ça, c'est un sentiment qui est vraiment génial, parce que c'est cette découverte de se rendre compte, tu vois, jusqu'où le jeu il va aller, ça perdure quasiment jusqu'à la fin, quoi. Au bout d'un moment, tu commences à comprendre quand même les enjeux. Mais bon, effectivement, la première fois que déjà tu te dis putain, je vais pouvoir aller dans l'aurora, ça va être incroyable. Ensuite, oh, il y a une île. Tu sais, tu t'étais dit c'est sous l'eau. Non, en fait, il y a une île cachée par des nuages très moches, mais tu les vois pas au début.
Et le clipping.
Tu le sais pas. Et le clipping, effectivement. Mais voilà, toutes ces découvertes que tu vas pouvoir aller de plus en plus profondément, et tu sais pas jusqu'où ça va aller. Ce mystère, vraiment, ça fait partie voilà, de leur objectif, de ce fameux thrill of the unknown, ce frisson de l'inconnu, et ça marche super bien.
Et puis ce qui marche bien aussi, c'est vrai que comme c'est un jeu de survie, au fur et à mesure, on va débloquer des outils, même des véhicules qui vont nous aider. Et ça aussi, alors bon, même si voilà, tu peux te douter qu'il y aura un petit sous-marin, tu sais pas forcément tous les trucs, toute l'étendue des choses avec lesquelles tu vas pouvoir interagir. Moi, c'est vrai que il y a un moment où j'ai compris que mon découpeur laser, ça allait me permettre de rentrer dans les épaves, alors qu'au début, moi je pensais que les épaves c'était juste de la déco, tu vois, genre un marqueur dans le monde ouvert, et autour tu trouvais des petites bricoles, parce que c'est le cas, tu trouves des bricoles, mais en fait c'est à l'intérieur qu'il y a le vrai good stuff. Et c'est une fois que j'ai eu mon découpeur laser, je me disais ah non, c'est pas juste un décor, je peux rentrer dedans, tu vois. Et du coup, vraiment, il y a plein de fois où le jeu est arrivé à me surprendre par ces possibilités-là. Ensuite, quand tu débloques le C-Mode, tu vas pouvoir aller plus profond, découvrir d'autres biomes
moment,
aussi.
Pense, du jeu.
Ça aussi, c'est vraiment chouette.
Le Cyclope aussi, quand même.
Ouais,
c'est
ouf.
Un gros moment. Moi, je savais rien du jeu, vraiment, quand j'ai joué. Donc, même le C-Mode, quand j'ai fait, je savais pas que ça allait être un truc du jeu. Parce que le petit Seaglide, ok, c'est sympa, mais c'est de la nage en plus rapide. Ouais. Le C-Mode, tu dis, ah ouais, quand même, ça t'ouvre des possibilités. Et le Cyclope, c'est aussi quand même.
C'est quand même une base sous-marine avec laquelle tu te bats. on peut construire sa propre base aussi.
Ouais, oui, c'est oui,
des choses. Ouais, ouais. Enfin, vraiment, le jeu part dans des directions. Moi j'ai vraiment le souvenir du. Tu sais, à chaque fois, il t'ouvre des portes comme
ouais,
ça. Et tu te rends compte que derrière, c'est encore plus grand et encore plus fun que tout ce que tu avais vu jusqu'à présent. Et donc, il y a cette espèce de surenchère qui se fait où le jeu continue de te donner, et comme ça, de te renforcer dans des bons feelings. Et c'est un plaisir, quoi. Enfin, voilà, moi, c'est mon jeu.
Retiens-toi encore un petit peu.
Trop bien. Et ça rythme pas mal le jeu parce que on le dit, il y a une progression quand même qui est assez nette et qui est intéressante. Mais je trouve que le Cyclope en plus, il amène vraiment une rupture parce que le Simos jusque là c'était vraiment le truc rapide. Tu vas en marche arrière, en marche avant, c'est bon. Tu vas échapper à n'importe quelle créature, tu vas super vite. Le Cyclope, il est super lent. Oui, il va beaucoup plus profondément, mais et le jeu te le dit déjà, il faut 3 personnes normalement pour le gérer. Quand il y a un feu à l'autre bout, faut arrêter le truc, faut aller à l'autre bout, prendre l'extincteur, éteindre. Enfin, c'est de la gestion qui est vraiment très différente. Et ouais, comme dit, c'est beaucoup plus lent, enfin, c'est beaucoup plus massif, ça a rien à voir avec le CMOS. Et ouais, ça crée une rupture, je trouve, dans le dynamisme du jeu. C'est un moment important du jeu. Ouais.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à une référence aussi comme Don't Starve, où c'est vraiment un roguelite, donc on va recommencer, là, ce qui est bien dans cette progression dans le craft, c'est que le jeu, au fur et à mesure, va un peu trivialiser les trucs qu'on faisait au début. C'est-à-dire que ce que tu faisais au début, qui était de ok, je vais commencer à gérer un peu ma bouffe, etc. Au début, c'est vraiment au cœur de tous les enjeux que tu vas devoir faire. Dès que tu comprends déjà comment fabriquer de l'eau, t'es content. Moi, j'ai mis très longtemps parce que pour moi, des poissons, on fabrique pas de l'eau à partir de poissons. Pas de sens, mais c'est comme ça dans le jeu. Et puis au fur et à mesure que tu avances, tu vas débloquer des choses, de pouvoir aller de plus en plus vite, de plus en plus profond, et augmenter en fait les enjeux et tes possibilités, tout en gardant vraiment une progression qui est finalement assez streamlinée, hein, qui est assez croissante. Surtout qu'il n'y a pas tant de challenges que ça. C'est vrai que c'est pas un jeu qui est particulièrement difficile non plus. Il n'y a pas de grands défis dans le jeu.
C'est un jeu qui au début te perd un peu quand même, mais pas tant que ça. Il maîtrise en fait vraiment ce côté, il te lâche la main, mais il te laisse dans un cadre assez défini. Au début, ça va être ça, tu répares la radio, et du coup, tu as des messages de capsules de sauvetage. Elles sont indiquées sur la TH. Je pense qu'il y a quelques exceptions, mais on va quand même te donner
celle il dit que parfois il y a des données corrompues et du coup on sait pas, mais par contre on sait que c'est à 600 mètres d'une autre capsule
dans telle direction,
mais il y en a qui sont indiquées. La tienne du début, elle est indiquée sur la TH. Ça, c'est une décision qui est complètement dans l'univers du jeu, c'est complètement arbitraire, tu vois. Il n'y a pas forcément de raison pour que ce soit le cas, parce que t'as pas de casque ou quoi, enfin t'as ton casque de plongée, mais qui a des trucs sur la tâche, je suis pas sûr. T'as une voix qui va t'indiquer le temps d'oxygène qui te reste, c'est des ateliers qui te reste 30 secondes, etc. Donc il t'aide un minimum, mais enfin, disons juste suffisamment pour que t'aies envie de prendre ton indépendance. Et c'est un jeu qui maîtrise bien, justement, qui maîtrise bien tout
ça. Ouais, c'est ça, il te lâche au début, mais bon, très vite, tu vas commencer à gagner ton autonomie sur la partie nourriture, la partie oxygène, la partie flotte. Au bout d'un moment, tu vas vraiment être complètement autonome, indépendant. Enfin, tu vois, tu vas pouvoir faire tes cultures de melon, tu vas pouvoir faire tes cultures, d'avoir tes poissons dans les aquariums. Enfin, au bout d'un moment, comme tu le disais, ça devient complètement anecdotique, cette gestion-là. Moi, je sais que personnellement, au bout d'un moment, d'ailleurs, j'ai arrêté. J'avais plus que la gestion, parce que le jeu nous permet d'enlever la gestion de la faim et de la soif. Ouais. J'ai trouvé que c'était plus agréable comme ça, parce qu'au bout d'un moment, ça rajoute des trucs dans la boucle qui parasitaient mon expérience. Mais le fait qu'on puisse l'enlever ou le garder, je trouve ça très bien, par exemple, ce genre de décision-là. C'est vous qui voyez, évidemment. Mais c'est vrai que, par contre, la progression, elle est très bien cadrée, et on a ce sentiment, à chaque fois qu'on va découvrir une nouvelle technologie, qu'on va pouvoir aller plus loin. Comme on va pouvoir aller plus loin, on va pouvoir découvrir des nouveaux matériaux, on va pouvoir fabriquer des nouveaux trucs, et ainsi de suite. Donc ça, bon, c'est comme ça que fonctionnent la plupart des jeux, hein, les Don't Starve, les Minecraft,
ouais,
etc.
Tout à fait, ouais.
C'est la mécanique de base.
Ouais,
là, la particularité, c'est effectivement cette narration qui nous sert comme ça de marqueur et de checkpoint où on avance. Toi, Max, qui en parlait, où le fait que, tu vois, dans un Don't Starve, l'idée c'est de survivre à son premier hiver, à son deuxième hiver, et ainsi de suite. Bon, l'idée c'est de survivre le plus longtemps possible. En gros, il y a une histoire, bien sûr, mais l'idée c'est un peu ça au départ. Là, très rapidement, Subnautica nous guide en nous disant tu dois trouver d'autres survivants, tu dois comprendre ce qui s'est passé, tu dois quitter la planète, et de là, en fait, tout se met en place.
Et puis, il y a aussi, comme on le disait, comme c'est pas un monde qui fait procédural généralement, il y a un vrai soin qui a été apporté vraiment sur la structure de ce monde ouvert. Alors, dans le jeu, on n'a pas la map, mais si vous allez voir sur Internet, moi, au bout d'un moment, je suis allé checker un petit peu à quoi ça ressemblait quand même dans l'ensemble. Et c'est vrai que c'est extrêmement bien foutu. Hein. Il y a vraiment toute cette zone centrale qui va être ce qu'ils appellent les safe shallows, donc les profondeurs un peu safe, où il y a les petites forêts d'orines, là, les grandes lianes là, dans lesquelles on va pouvoir récupérer ces trucs. Et puis, autour de ça, encore, il y a cette espèce de grande zone où c'est les trucs rouges, là, vous savez, l'herbe un peu sanglante, là, donc qui va encore entourer ce truc-là. Et puis, encore plus loin, toujours de manière un peu concentrique, hein, puisque tout part finalement de notre vaisseau. Hein, notre vaisseau, il est vraiment tombé au bon endroit dans l'univers, c'est évidemment. Pratique. C'est pratique. Et puis, aux différentes extrémités, voilà, il y aura les zones les plus dangereuses. Donc là, il y aura un endroit où il y a les espèces de grands rift backs, les rifts, je sais plus quoi, où il y a des léviathans et des machins. Il y a l'endroit où il y a l'espèce d'île, justement, là où il y a le laser, et là aussi, il y aura des choses particulières. Et puis surtout, comme on est dans un jeu qui ne s'étale pas simplement comme ça, de manière horizontale. Mm-hmm. Il va aussi plonger, et il y aura des cavernes, des biomes finalement, c'est comme ça qu'ils les appellent, des espèces de zones comme ça, qui sont des zones sphériques au cœur comme ça de la profondeur, et qui auront toutes une identité visuelle, une faune, une flore qui est très spécifique. Et ça, ça fait vraiment partie de ce plaisir de la découverte, parce qu'en fait, dès que tu as vu un endroit un peu différent de la zone de départ, dès que tu arrives comme ça, il y a la forêt des champignons, il y a aussi les trucs où c'est l'herbe rouge comme ça, tu te dis mais jusqu'où on va aller, et là le jeu il en a vraiment sous la pédale des biomes qui vont vraiment être différenciés.
Il y a plein d'étapes, on parlait des étapes narratives, mais il y a vraiment aussi des étapes où tu te prends une claque, hein, vraiment, autant c'est très joli, tu vois, comme tu disais, les safe shallows, où l'herbe rouge, je trouve que c'est très joli, mais juste en dessous, c'est à ce moment-là que j'ai un peu eu ma première claque biome qui est un minimum de profondeur. Il faut le Simos, je crois, quand tu trouves les gros champignons rose fluo, ouais, avec les espèces de gros insectes larves dedans bizarres. Et t'as une base d'ailleurs sous-marine aussi.
Exactement, une base des anciens Degasi.
Ouais. Et tu te prends tout ça vraiment à la face. Et ouais, c'est un moment d'émerveillement, c'est ça, le thrill of the unknown, le frisson de l'inconnu. C'est ces moments-là. Mais t'as aussi, quand tu continues d'aller toujours plus profondément, t'as le truc fantôme, je sais plus comment ça va, ou
la rivière,
alors là tu commences à descendre,
on est vraiment très profond,
moins 800, un truc comme ça. Donc c'est quand même vraiment mid game, hein, vers ce niveau là
le truc avec les raies, les espèces de raies blanches là, super,
oui, et puis il y a des trucs électriques,
il
y a aussi
un
moment
où
tu sais le jeu, je sais plus, je crois que c'est une zone un peu vers le nord où tu sais d'un coup tu vois la terre qui, tu sais, t'as une grosse falaise et tu te dis ok, là faut vraiment descendre, et tu sais en fait si tu continues tu vois rien en dessous si t'arrives pas à descendre à moins de 200 mètres, parce que t'as ton simot, le simot ça descend à 200 mètres, ça va pas plus loin, ou alors faut l'améliorer. Et il y a quand même plusieurs moments dans le jeu où tu dis bon là j'ai pas les outils finalement pour aller jusqu'ici. D'ailleurs, petit détail qui est malin, le monde est délimité encore une fois par vraiment des abysses, et le jeu fait popper toutes les minutes des léviathans fantômes, donc vraiment une des pires créatures du jeu, et toutes les minutes si tu traînes dans ces coins là où finalement y a plus rien, y a plus de jeu, le jeu trouve des limites comme ça en créant du danger. Ça, je trouve ça assez chouette de pas avoir fait des murs invisibles
ouais,
des trucs comme ça.
Été dommage,
c'est un mur un peu plus psychologique, on va dire, que tu ne franchiras pas de toute façon au bout d'un moment.
Ouais, t'as le bestiaire varié, et certaines créatures seront que dans tel biome ou que sous telle profondeur. Dans les trucs un peu dégueulasses, ces espèces de les squid, ils appellent les espèces de, ça a des gros yeux, une espèce de cerveau un peu à vif, truc un peu
c'est en arrivant un peu vers justement la rivière fantôme que tu vas peut-être commencer à un peu les croiser. Ils zonent un peu dans ce.
C'est ceux qui se téléportent, non? Non, c'est pas ceux-là.
Ça, c'est les Warpers que tu croises très tôt.
Tu
moment
assez tôt.
Vers la première île, là où t'as le canon, là t'as un Warper qui zone.
Et puis, bon, le futur Léviathan là qui zone vers l'Aurora, ça aussi, c'était un moment. Oui, le Reaper, pardon. Bon, ça, c'était un moment, moi, vraiment, là, j'ai vraiment flippé parce que la première fois que je suis tombé dessus, je l'ai vu zoner, tu sais, il fonçait vers moi, tel un Léviator, et j'ai eu peur, quoi, et tu sais, en plus, il m'a défoncé, et ouais, tu sais, tu l'entends hurler, et c'est vrai que, bah, à chaque fois que t'en croises un, comme ça, surtout au début du jeu, tu fais, putain, il y en a un qui zone, là, et justement, c'est dans ces moments-là, où, grâce à ce, que tu sais, tu te rends compte de ta petitesse d'humain, tu sais, que je ne suis qu'un petit poisson, excusez-moi d'être là.
Parce qu'avant ça, normalement, t'as déjà croisé dans les vignes, l'espèce de petit requin,
oui,
croco,
les requins,
un peu,
oui, avec un...
Bon, ça fait quand même flipper, tu vois, ouais, au tout début du jeu.
Ils sont à peine plus gros que toi.
Ils sont gentils.
Ils peuvent quand même bien te niaquer, mais juste en nageant, tu peux t'échapper. Quand tu vois le Reaper, là, t'es vraiment pas bien. T'es d'un coup, t'as une petite descente.
T'as ce cri strident. Enfin, ouais, je veux dire, ouais, du coup, tu le sais. Après, tu vois, c'est le genre de truc, c'est... Là, j'ai plus le bruit en tête, mais si je le réentendais instantanément, tu vois, j'aurais tous mes réflexes de survie qui se mettraient en place.
Le cerveau, il ferait tit-tit, on a reconnu.
Vas-y, cours, cours.
Bon, après, moi, ce qui m'a le plus tué dans le jeu, c'est les espèces de petits poissons kamikazes que t'as au tout début qui c'est ça qui m'a le fait le plus de dégâts.
Ça fait mal
tout au long du jeu parce qu'ils sont vraiment relous et pas forcément faciles à se débarrasser en tout cas. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc là. Et puis quand on va aller plus profondément, vraiment quand il y a cette la zone de lave qui est vraiment un des derniers biomes du jeu où il y a cette espèce de géant Sea Dragon qui est pas très joli. Hein.
Moi, je trouve chum,
pas hyper
vraiment,
fan.
Ouais.
Chum, voilà.
Carrément.
Dans le tu sais sur le tu sais il y a le logo du jeu avec toutes les différentes appréciations et le monstre est chum, Maxime.
Petite déception.
Maxime, une étoile.
Ouais. Il y a un côté presque ridicule où là vraiment il crache des météorites.
Oui,
tu sais, t'as un côté ouais, c'est bon quoi.
Allons-y, très bien, bien sûr, un poisson qui crache du feu.
Mais c'est parce que la rencontre avec celui-là, elle est cool. On en parlait dans la préparation. C'est que juste avant, donc pour arriver à la lave, il faut passer par la rivière fantôme.
Ouais.
Et donc là, dans la rivière fantôme, à un moment, on traverse littéralement le squelette d'une version gigantesque du Sea Dragon. Et tu te dis, mais si ça existe encore, ou si j'en croise un, je vais. Enfin, tu sais, tu t'imagines vraiment le moment où tu vas avoir une bestiole qui va avaler ton cyclope d'un coup et tu vas juste faire plomb.
Mais je trouve que le jeu, en fait, dans les transitions, en fait, je pense que les meilleurs moments, c'est vraiment les transitions entre biomes. Quand justement, tu sais, tu vois la colorimétrie qui commence un petit peu à changer, parce que tu sais, t'étais, je sais pas, dans du bleu, dans du noir, et d'un coup, il y a un vert comme ça qui apparaît, quand t'arrives vers le truc. Et bon, moi, je sais que j'ai joué un peu avec les enfants à côté de moi, tu vois, et quand on est arrivé dans la rivière verte, on s'est tu d'un coup comme ça, et tu sais, on avançait et on regardait ce qui nous arrivait, on commençait à voir le squelette devant nous, et tu sais, on était vraiment en mode genre ouais, voilà, qu'est-ce qui se passe, tu retiens un peu ton souffle, tu bouges plus, t'es sur ta souris, ton petit ZQSD, t'avances tout doucement, tu vois, tu avances un peu à tâtons, et je trouve que le jeu arrive à créer plein de moments comme ça où vraiment tu retiens ton souffle parce que tu es un peu entre l'émerveillement et quand même la crainte de dire vers où tu vas.
Je pense que la peur, c'est quand même assez important, tu vois. C'est pas indispensable, mais je pense que la peur, ça stimule beaucoup ton imagination.
Ouais.
Il y a peut-être un truc dans ton cerveau où tu commences à imaginer des scénarios, des choses, et c'est un jeu qui te met en danger, qui a quand même des trucs qui essaient de te bouffer. Et c'est vrai que pour ce fameux frisson de l'inconnu, inconnu et danger, c'est quand même deux choses qui vont bien ensemble, surtout quand lui, son propos, on l'a déjà évoqué, mais de te remettre un peu à ta place, d'avoir une nature qui a le contrôle, et c'est pas toi qui retournera au sommet de la chaîne alimentaire. Et lui, il y a ce côté, voilà, nous, dans notre vie de tous les jours, on a l'habitude que tout soit fait sur mesure pour l'humain et compagnie. Et là, le fait d'être vraiment en danger, c'est une émotion que t'as pas l'habitude d'avoir. Et je pense, rien que le danger, c'est le signe déjà que c'est bon, tu dépasses des nouvelles frontières. En fait, je trouve que ça va bien avec l'inconnu et l'exploration.
Mais c'est ça, de toute façon, je pense que la plupart, si ça a autant marché sur YouTube, sur Twitch et tout, c'est parce qu'il y a ce côté justement très primitif de la peur dans le jeu qu'on va ressentir et qu'il y a un bon moment qu'on a envie de partager et qu'on a envie que les autres gens vivent également, en fait. Parce que il y a peu de jeux finalement qui nous procurent ce genre de sensation-là. Et Subnautica, y arrive parfaitement.
Ouais, et encore une fois, moi, ce que je trouve vraiment fantastique, c'est que on ne sait pas tout ça dès le début, quoi. Et c'est vraiment des choses qu'on va prendre dans la tronche au fur et à mesure qu'on avance. Et c'est ça qui permet vraiment cet émerveillement, parce que on ne sait pas. On ne sait pas jusqu'où descend le jeu. On ne sait pas que ça va se terminer, sur ce truc de lave derrière. Au début même, on ne soupçonne pas que, c'est des biomes qui sont liés les uns aux autres et que finalement, il y a une progression qui est assez stratifiée, qu'il y a quand même quelques profondeurs clés dans la progression. Ça va être moins 200, moins 300. Après, ça va être moins 700. Et puis après, 1000, moins 1500, où t'es vraiment au fond du fond. Et en fait, c'est un monde qui a vraiment été superbement modelé, je trouve, dans son truc, mais qui en même temps, tu sais, il vend pas la mèche dès le début, il te donne pas tout ce qu'il va y avoir. Et je trouve, c'est ça qui fait qu'on sait pas ce qu'il y a. Et comme on le disait pendant la préparation, quand tu, avec ce squelette, tu te dis, est-ce que je vais croiser ça ? Et en fait, le fait que le jeu te laisse tout le temps le doute, bah, ça laisse place à l'imagination. Et comme tu dis, c'est ça que je pense qui va faire que bah, y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête, dans ce jeu finalement. Hein. C'est vraiment un jeu qui arrive à créer beaucoup de choses dans ta tête.
Oui, on anticipe en permanence dans le jeu, et en fait les devs aussi, parce que justement ils anticipent en permanence ce qu'on va faire pour pouvoir nous donner l'histoire dans l'ordre qu'ils veulent, parce que là il y a un truc que vous avez rappelé dans cette émission qui s'appelle Game Next Door, que je vous invite à écouter et à regarder, c'est très très bien, où justement en fait comme ils pouvaient pas anticiper, comme on est dans un monde ouvert, bah tu peux pas anticiper à quel moment les gens vont découvrir telle ou telle zone, en gros ils ont disséminé des indices en les dupliquant, et à chaque fois que tu découvrais le premier, enfin dès que t'en découvrais un, les autres étaient disparus.
Oui, ou alors t'en as plusieurs, genre par exemple les Stargate, là il y a des portes de téléportation, bon bah là il y en a plusieurs dans le jeu, donc forcément à un moment tu vas tomber sur une et tu diras ok, il y a ce truc là,
il y a un réseau,
ça fonctionne,
y a un truc
avec le lithium, donc ça veut dire que je peux en ouvrir ailleurs. C'est ça aussi, c'est qu'il y a vraiment tu t'as des connaissances comme ça qui vont s'accumuler, tu vas dire ah ok, ce monde il fonctionne comme ça, il y a ça dans le jeu, et c'est ça qui est surprenant en fait, c'est de dire je comprends qu'il y a ça dans le jeu. Aujourd'hui combien de fois ça nous arrive de jouer à un jeu où en jouant dans le truc on se dit ah putain il y a ça dedans, alors qu'en fait tu sais tout en général.
Oui, c'est ça, tu vois une tour, tu te dis je monte en haut de la tour, je sais ce qui va se passer,
je sais qu'il va y avoir des camps de machin. Enfin, c'est très cadré, c'est quelque chose que je reproche un peu au AAA, c'est de toujours un peu savoir où ils vont m'emmener. Et là, Subnautica, c'est totalement à l'inverse, c'est un jeu qui ne dévoile rien du tout et qui enchaîne les surprises. Et bon, à la fin, effectivement, quand t'as commencé à remettre un peu toutes les pièces du puzzle ensemble, quand t'as compris, bon bah tu vas vraiment un peu aller à la fin de l'entonnoir tout simplement et pouvoir aller au bout du jeu. Mais longtemps le jeu arrive à te garder dans la course et te redonner des petites piécettes comme ça sur l'imagination. Et, ouais.
Bah, d'ailleurs à ce sujet, moi c'est un moment quand même où j'avais été un poil déçu par le jeu, où juste avant la lave, ça devient clair qu'en fait bah tu vas juste devoir faire un aller-retour en fait entre l'arbre, je sais plus trop quoi, l'arbre fantôme, j'ai complètement oublié le nom, et la lave, donc on y va, donc moi j'étais en cyclope, et là clairement c'est voilà, tu vas descendre en dessous de telle limite, tu peux pas encore y aller, il faut construire le module supplémentaire pour ton cyclope pour qu'il puisse descendre assez bas, et là il y a juste ce côté bon je me barre du coup et je vais trouver le moyen de crafter mon petit module et je vais devoir me retaper en fait un petit peu toute cette route, alors qu'avant jusque là j'avais au moins l'illusion de me dire n'importe où je vais pouvoir trouver le trou qui va me mener au nouveau biome, à la nouvelle zone.
Ouais, à la
et
fin
là,
tu te rends compte que t'es dans un goulot d'étranglement.
Bah ouais,
oui,
c'est
et t'as
ça,
pas le choix,
c'est un peu la faiblesse effectivement de cette dernier tiers du jeu,
c'est un tunnel quoi.
L'entonnoir commence à vraiment se fermer, donc tu n'as plus du tout ce côté largeur d'aller partir au nord, partir au sud, partir à l'ouest et découvrir encore des choses. Le jeu vraiment va se refermer, hein, c'est logique, il y a bien un moment, si on veut arriver à la fin il faut bien que ça se referme. C'est vrai que c'est aussi dans ces eaux-là que j'ai commencé un peu à en avoir marre du craft, de cette espèce de routine de collecter. Moi c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'aime bien faire dans le jeu vidéo, ce côté crafting ça m'a jamais attiré, et c'est vrai que ça je l'ai un peu subi, même si j'avais beaucoup le côté découverte et que le jeu a vraiment réussi à m'émerveiller là-dessus, j'ai quand même pas mal subi, et il y a un moment où j'en avais un peu marre, et quand j'ai commencé à comprendre que ok, il va falloir les différentes tablettes pour pouvoir ouvrir les différentes portes, et puis ensuite qu'il me faudra encore de profondeur.
Le jeu te laisse quand même pas mal anticiper, parce que de mémoire j'avais par avance, tu vois, quand je voyais que je pouvais fabriquer un truc MK2, MK3 machin, j'essayais directement de fabriquer le dernier en me disant comme ça c'est plié.
De toute façon
quoi.
T'es obligé de passer, en général t'as besoin du MK2 pour fabriquer le MK3.
Souvent, ils essayent de faire en sorte qu'il y ait vraiment ce côté, voilà, tu progresses par étapes. Mais normalement, en fait, pour peu que tu aies accroché à l'histoire, en fait, à ce moment-là, voilà, le bonbon de la découverte et de l'exploration, la carotte habituelle, est remplacée par celle de l'histoire, parce que tu as envie d'aller au bout et de savoir ce qu'il en est de ce truc-là. Moi, je sais que j'étais complètement happé du début à la fin. Mais voilà, encore une fois, on n'a pas tout à fait le même profil de joueur. Toi, Hugo, t'aimes pas trop ces jeux-là. Moi, je kiffe bien les jeux de survie en général. Don't Starve et tout, c'est ma cam. Je m'étais amusé à faire ma petite base. Ce sont des trucs qui sont complètement
comme moi je crois qu'on a fait un truc vraiment dégueulasse, moi, fonctionnel, j'ai vraiment une base de Cluedo, la scanner, des armoires, merci bien.
Je m'étais embêté à vraiment faire un truc propre, à me dire bon alors je veux que mon bureau il soit orienté dans tel coin parce que là il y a ce corail géant que je trouve très joli, alors etc. Mais voilà, c'est des choses que le jeu te laisse faire qui sont pas forcément utiles mais qui te permettent toi de t'y intéresser, ouais, de continuer de t'engager dedans. Quoi,
et puis ça te fait plaisir, en fait, si tu y trouves un plaisir, bah c'est ce qu'ils expliquaient d'ailleurs un petit peu, cette idée de dégager un peu les récompenses extrinsèques et de laisser vraiment de l'intrinsèque ce plaisir. Et du coup, c'est vrai que bah, tout ce plaisir de construire une base et tout, bah, y a plein de gens à qui ça parle beaucoup, qui vont construire leur petit machin, une bulle en verre comme ça, devant un joli biome, ils mettent le petit bureau, les petites plantes et tout, parce que bah, ça peut être un plaisir totalement valable. Et c'est vrai que, mais c'est bien, c'est de le rendre optionnel, c'est-à-dire que t'es pas obligé de le faire, c'est, si ça te fait plaisir, bah comme tu y trouves du sens, bah ça rentre bien dans ton expérience.
Alors que pour choper le truc, pour je sais pas, fertiliser les œufs, alors là moi je suis allé sur internet, là pour le coup vraiment
ah
ça
oui
m'a...
pour la ouais. pour la fin là ouais, ouais, parce les, que les autant, derniers, voilà,
t'as le demi-tour dans la lave et tout, tu découvres le nouveau biome, là c'est cool, et puis t'as le moment quand même ouais où tu vois l'empereur là, le Sea Empress, ça c'est vraiment cool, mais après là où tu dis ah oui il va falloir ça pour les œufs, j'ai fait ouais non là
c'est surtout qu'il y a des trucs qui sont bêtement dans l'aquarium où t'es.
Oui,
tu peux les chercher très longtemps, mais en fait, ils sont pile là où t'es. Ah, ouais, ouais. Il y avait une des ressources. Enfin, c'est vrai que, bon, bah, sur la toute fin, forcément, il y a cette espèce, tu sais, le syndrome de l'envie de pipi, quoi. Genre, ça y est, au mesure.
On n'avait jamais eu encore le syndrome de l'envie de pipi. Alors,
bah,
là,
tu vois, à mesure que tu te rapproches des toilettes, oui, t'as plus envie et tu peux plus te retenir, tu vois. Donc, tu veux faire qu'une chose, c'est y aller. Mais donc, là, au bout d'un moment, le jeu, il dit, bon, bah, oui, tu veux le finir, mais il faut surtout pas oublier d'appuyer sur ce putain de bouton, sinon tu désactives pas le laser. La fusée part pas, je crois. Je sais pas si la fusée peut partir.
Non, elle peut pas. Tu reçois un message. Ouais, ouais.
Fais gaffe.
Mais c'est ça le truc, c'est que aussi le rythme avec lequel tu vas progresser dans le jeu est vraiment personnalisé, on va dire, puisque justement déjà il y a ce côté très optionnel. Et puis encore une fois, il y a quand même pas mal d'autonomie. C'est un jeu même qui demande pas mal de skills, d'organisation, de gestion. Moi, je sais que j'ai mis beaucoup de temps à avoir, on va dire, l'hygiène d'utiliser des balises pour noter les endroits, tu vois, où parfois j'arrivais à un endroit mais je savais que je pouvais pas y aller tout de suite parce que bah, c'était, j'en sais rien, à moins 500 et je pouvais descendre qu'à moins 300, et du coup bah, si t'as pas une balise sur toi pour dire ah, ici il y a des rubis et c'est violet donc il se passe quelque chose, bah c'est vrai que tu vas peut-être un peu l'oublier, bah, parce oui, qu'encore oui. une fois, comme on peut pas cartographier vraiment le truc, et ouais, c'est un jeu qui demande quand même un vrai engagement à plein de niveaux, que ça soit dans l'organisation de l'exploration mais aussi des collectes. C'est vrai que l'arbre de trucs, on en discutait, il y a des fois où il faut faire un peu les listes des courses. Moi, je disais aux gosses, alors tu retiens, il nous faut du métal, du machin, du truc. Et on partait, on faisait les... Même je leur ai fait faire les courses à un moment. Je leur ai donné... J'allais aller me chercher du titane, j'en ai marre. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté... C'est un jeu dans lequel tu dois t'engager, dans lequel il faut engager du temps et de l'énergie et de la réflexion pour pouvoir en voir le bout. C'est assez long, hein. Je sais pas combien de temps vous avez mis, vous, pour...
Une trentaine d'heures.
Ouais, d'accord.
Près, plutôt tranche basse, je crois, même, trentaine
oui, parce
d'heures.
Que, c'est moi, on a eu des retours de gens qui ont mis 80 heures pour le faire. Après, ça dépend, encore une fois, du rythme, du temps que tu vas investir dans ta base, de ta froussardise aussi. Si t'as peur des trucs, on sait qu'il y a quelqu'un sur le Discord qui nous a raconté qui, à chaque fois, envoyait des petits scanners pour vérifier qu'il y ait vraiment personne dans les coins où il allait. Donc c'est vrai qu'il y a des expériences qui sont très différentes, mais je pense qu'ils justement témoignent de cette largeur, de cette marge de manœuvre que nous laisse le jeu pour l'explorer, le découvrir, et voilà, il nous donne beaucoup d'autonomie.
Ouais, c'est vraiment une machine à souvenir, quoi, parce que du coup tu vas avoir plein de moments qui vont te rester en tête comme ça, de ta propre expérience, que tu vas pouvoir partager avec les autres gens qui n'auront pas forcément vécu la même chose dans le même ordre. Moi, j'avais construit le cyclope très tôt, j'ai mis super longtemps à aller à l'Aurora, parce que j'avais pas compris au début, je sais plus, enfin je sais que j'ai pas forcément fait tout dans l'ordre idéal, mais c'est pas grave, le jeu en fait est pensé pour de toute façon te laisser un petit peu de latitude à ce niveau là, donc ça fonctionne très très bien. Et tu le disais, le côté horreur, en fait c'est assez rigolo, c'est que c'est devenu en fait c'est quelque chose qu'ils avaient pas forcément anticipé au départ. Ils voulaient le côté exploration, mais ils se sont rendus compte que cette peur de l'inconnu touchait beaucoup de gens, et que la terreur des fonds marins touchait un tas de gens.
C'est
un truc que bon, ça fait peur, enfin vraiment.
Quand tu descends et qu'il n'y a rien autour de toi, et vas-y, et pour peu qu'il fasse nuit en plus, parce qu'il y a un cycle jour-nuit, oui. Et que tu descends comme ça, t'as juste tes petits phares de ton cimote.
Ouais, ça éclaire,
c'est
juste
vrai
un
qu'il y a
poisson,
des moments où tu te dis, mais je sais pas en fait, il y a une espèce de vertige d'être, bah, d'être au milieu de rien, et toujours avec ton imagination qui dit, eh, il y a sûrement un truc qui va pas tarder à débarquer.
Ouais, c'est ça,
hein. Et c'est vrai que je pense que c'est ça, c'est un jeu qui arrive à créer des souvenirs, comme tu dis, des sensations qui sont un peu tatoués sur le fond de ta peau, un petit peu dans tes frissons comme ça. Et c'est vrai que ouais, du coup on le disait, hein, le frisson de l'inconnu, c'est un jeu qui arrive à bien faire naître ça.
Et comme tu le disais, ce qui est ouf, c'est que c'était pas prévu au début. C'est vraiment un jeu, enfin la grande réussite de Subnautica, c'est vraiment de voir à quel point ça s'est métamorphosé au jour le jour, pendant l'early access, avec le retour de tous les joueurs. Il y a Charlie, notre ami Charlie, qui il prend inspiration sur Stephen King quand il dit que Stephen King dit qu'en écrit, en gros, en écrivant, lui, il écrit des personnages, beaucoup, quelques éléments importants du scénario, mais la fin va être écrite par les personnages. En fait, une fois qu'il les a écrits, c'est eux qui vont lui suggérer un petit peu comment devrait se passer la suite de l'aventure. Et le Ex Subnautica, c'est un jeu qui a fini par s'écrire, en fait, et aussi avec le retour des joueurs. Et c'est ça qui est... Ils ont vraiment eu le bon mindset avec l'Early Access, où lui, il s'est dit vraiment le mot-clé à retenir, c'est reframing, donc du recadrage ou de l'adaptation, le fait...
Ouais, changer de perspective un petit peu.
C'est ça, ouais, le fait de pouvoir vraiment s'adapter au retour des gens, et comme on l'a dit, de repérer vraiment la bonne émotion au moment, comment reproduire ça, comment capitaliser là-dessus, et ouais, c'est pour ça que maintenant, ils font des confs super intéressantes et que le jeu est un succès.
Est-ce que finalement, eux aussi ne sont pas allés dans l'inconnu avec ce jeu, et ils n'ont pas fait des découvertes? Non, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça, de se dire que ce jeu, en fait, c'est quand tu le regardes, tu te dis, c'est tellement bien foutu, c'est tellement, tu sais, ça, tout se tient bien, il y a une vraie cohérence dans la proposition. Alors même si moi, le pilier vraiment craft, c'est pas quelque chose qui me parle et que j'aime bien, je trouve que ça donne au jeu une vraie cohérence. Et c'est ça qui est étonnant, c'est de dire, en fait, ils sont partis, tu sais, on peut voir d'ailleurs des images de proto, hein, encore une fois, sur cette, sur cette interview de d'Ars Technica, pardon, où on voit que il est dans une espèce de sous-marin dégueulasse et que voilà, il fallait être à plusieurs, ouais. Et que en bas c'était juste de some shit you have to collect, tu vois. Et en fait voilà, ça s'est vraiment transformé, ça s'est agencé ce monde-là pour finir par quelque chose qui est vraiment extrêmement cohérent. Et voilà, qui a donné un jeu vraiment successful, et qu'aujourd'hui, voilà, je pense qu'on le disait un peu en préparation, pour nous, c'est devenu un incontournable un petit peu du jeu d'exploration, tout simplement, quoi. Parce que des jeux qui arrivent à procurer ce sentiment, on le rapproche parfois un peu d'Outer Wilds. Il y a pas mal de gens d'ailleurs sur le Discord.
Knowledgevania, un peu, ouais. Tu sais. C'est vrai que c'est des jeux qui sont souvent rapprochés tous les deux, et moi, ça fait partie de mes grosses claques de ces dernières années. Et surtout, Subnautica, je sais plus si on l'a dit, mais il avait un peu ce rôle, tu sais, de chaînon manquant entre des genres de plutôt orienté narration, ouais. Et plutôt orienté survie, où on avait beaucoup de jeux de survie aux abus années 2010, enfin je veux dire avec Minecraft, des jeux de survie avec des cubes ou des trucs, on en a eu vraiment des tonnes et des tonnes. Cette boucle d'artisanat, craft, ouais. Récolte, on la connaît par cœur maintenant, il n'y a pas de souci. Mais des jeux qui proposaient vraiment une histoire de A à Z avec toute une narration qui t'engageait autant et qui en plus te surprenait en permanence, finalement il y en a très peu des jeux qui font ça et qui prennent cette direction là même si oui, il y a une fin à Minecraft, il peut y avoir une fin à Don't Starve et tout, mais ça va pas du tout dans ce délire là. Et donc il est arrivé avec quelque chose qu'on pensait pas forcément possible, et a montré que non seulement c'est possible, mais en plus ça marche bien et ça rend un résultat incroyable, quoi.
Et du coup voilà, ça a été un gros succès. Maintenant ils ont les sous, ils sont un peu plus confortables. Alors ils ont quand même démarré une nouvelle phase d'Early Access pour Below Zero qui est pas, alors moi je croyais que c'était un DLC, je pensais que c'était un truc un peu annexe à Subnautica, mais non, pas du tout, hein. C'est une vraie suite qui va se dérouler dans un univers, alors ce sera quand même un peu c'est l'univers de Subnautica,
ouais,
mais voilà,
planète,
il y aura un setting un petit peu différent. Below Zero, il y aura peut-être du froid, de la banquise, des choses comme ça, j'imagine. Pas trop regardé, j'ai regardé un petit peu de choses. Vous êtes vraiment, je crois, vous êtes,
ah ouais,
vous
moi,
avez décidé de
vous
laisser vierge de toute chose. Mais c'est vrai que comme c'était ça qui faisait la force du premier, on n'a pas envie de, on se dit bon voilà, je préfère attendre.
En fait, je crois qu'il est arrivé sur le Epic Game Store, j'ai pris l'Early Access instantanément, genre je l'ai acheté, je l'ai pas installé, et depuis, tu vois, j'attends, et là ils ont annoncé donc ça sortirait en mai 2021 normalement, donc
ça va arriver, voilà. Ouais, exactement. Alors on sait pas encore le nombre,
j'espère qu'il y aura pas trop d'épisodes de fin du game à ce moment là parce que je serai probablement très occupé.
tu seras occupé, très bien. Alors apparemment ce sera une suite qui sera un peu plus courte, hein.
Oui,
ils ont envie de faire un jeu peut-être moins gros, moins dense que le premier Subnautica. Est-ce qu'ils ont expliqué pourquoi cette démarche?
Non, pas
peut-être l'envie de pas passer 4 ans sur le développement d'un même jeu,
parce qu'en fait ils bossent également sur un autre projet que là pour l'instant on n'en a pas d'infos.
Non, on n'a pas d'infos. bon, c'est juste que apparemment ils ont envie de faire quelque chose peut-être qui est un peu plus grand public, parce que bon, alors au grand public, c'est vrai que Subnautica finalement, on va dire qu'esthétiquement ça, ça peut parler à beaucoup de monde, mais c'est vrai que le fait, encore une fois, malgré tout, de faire un jeu sous-marin survie, ça, ça peut un peu segmenter, ça peut diviser, faire sortir des gens. On sait d'ailleurs, là encore une fois, je parle du Discord, mais il y a des gens qui nous ont dit que bah jamais ils pourraient jouer parce que bah trop peur des feux, bien sûr.
Et ça, ils le savent et ils l'assument, tu vois. Ils disent oui, mais bon, voilà, nous on fait un jeu sur les fonds marins, et c'est ce qui fait aussi le plaisir de beaucoup d'autres, donc ils assument un petit peu ces éléments forts et qui savent excluant pour certaines personnes. Alors que là, alors il précise pas, mais Charlie Cleveland, il dit en tout cas, voilà, il veut faire un jeu commercial, pas dans le sens vraiment monétaire du terme, même si voilà, évidemment il crache pas dessus, mais dans le sens, voilà, il veut faire un jeu qui va toucher beaucoup de gens. Il est pas très précis, j'ai l'impression qu'il alors je sais pas s'il sait pas ou s'il trouve pas vraiment les bons mots, tu vois, mais il lâche un peu des mots, tu vois, il va dire je sais pas, il y a la notion d'inclusivité, la notion de je sais plus, mais un autre mot un peu qui mélange un peu, voilà, il y a un peu ce côté, voilà, il est juste touché beaucoup de gens, voilà.
D'accord. Ouais, bah de toute façon c'est toujours compliqué, hein. Tu veux évoquer un projet, d'une, tu sais qu'il a pas forcément sa forme finale, en plus ça peut poser problème de communiquer sur un jeu qui est pas encore annoncé si jamais il est annulé en cours de route, quoi que ce soit. Donc c'est toujours difficile, c'est toujours un exercice un peu casse-gueule d'évoquer des choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont vraiment appris énormément de ce développement au long cours de Subnautica, puisque il y a d'ailleurs, là c'est dans les confs de la GDC, donc tout un post-mortem qui vous permet d'en apprendre beaucoup, encore une fois, sur cette phase de développement et d'anticiper. Et je pense que cette idée d'avoir réussi à vraiment cadrer les jeux, non plus sur les mécaniques, mais sur les émotions, je pense que c'est un truc qui a dû vraiment les marquer et qui va infuser forcément dans leur nouveau projet.
Et qui peut-être, leur a fait passer aussi ce cap quand même, parce que bon, même si Natural Selection et tout, ça avait fonctionné, ça n'a pas fonctionné comme Subnautica. Peut-être que maintenant, c'est un studio aussi qui a vraiment envie de s'imposer dans l'industrie, tu vois, dans le paysage, et dire, on existe, on a fait ça, et maintenant, on va pouvoir faire d'autres choses. Enfin, se lancer sur plusieurs projets, quand même, c'est assez intéressant, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait jusqu'ici, alors que, je le rappelle, ils sont là depuis 2001, donc voilà, 20 ans. Et ça va être intéressant de suivre un peu le destin de ce studio. Bon, voilà, Subnautica, ça fait longtemps qu'on avait envie d'en parler. Je sais que c'est un jeu du cœur, hein, vraiment.
Ah moi, c'est vraiment un truc culte, hein. J'en ai eu un souvenir assez ouf, parce que justement, il y avait ce côté découverte de... à force de jouer aux jeux vidéo, et qu'en plus nous c'est notre métier, c'est vrai que la sensation de surprise, c'est plus un truc qu'on ressent tout le temps. Tu lances un jeu, tu vois, si 99% du temps c'est un roguelite, le reste du temps c'est un open world à la Assassin's Creed, enfin non, j'exagère, mais je veux dire, assez souvent tu sais à quoi t'attendre, et là vraiment c'est un jeu qui m'a emmené dans des directions, je m'y attendais tellement pas, donc voilà, je salue ma chère et tendre qui m'a présenté le jeu, c'est son anniversaire d'ailleurs, donc, j'en profite, je la salue à nouveau, on lui dédie l'épisode.
Exactement. Et qui influence les influenceurs,
tout à fait.
Et bien, c'est souvent en fait les gens qui vivent avec nous, voilà. c'est eux qui décident de nos vies en fait, voilà. Très bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Merci messieurs, on se retrouve, je le rappelle, dans 3 semaines pour un nouvel épisode de Fin du Game. Petit décalage histoire de garder l'objectif de 2 épisodes par mois. On vous remercie également si vous nous aidez sur Patreon. Hop, vous checkez dans la petite description, vous avez tout ce qu'il faut, également l'accès au Discord, on en a pas mal parlé si vous voulez participer, voilà, à toutes ces discussions qui entourent à la fois les prochains jeux dont on parlera, et puis aussi une fois que l'épisode sort, il y a toujours des petits débats, des petites choses. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? C'est dommage, vous n'avez pas parlé de... on vous embrasse tous et toutes, évidemment. Et puis, on embrasse aussi Sœur d'édition, notre sponsor. On les remercie encore une fois. Allez checker leur site internet. Pas mal de rééditions qui arrivent d'ici l'été. Voilà, si vous voulez aider notre cher Benoît National à payer sa maison, sa villa, même que dis-je, son château en Charente-Maritime, eh bien, vous pouvez acheter son...
Il va falloir acheter beaucoup de livres,
mais c'est diable. Mais
allez-y, moi, ça me va. On est content.
On vous remercie évidemment de nous avoir écoutés. Ciao.
Salut. Salut.